Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
Je suis ravie de vous retrouver pour ces trois soirées de Libre Antenne que nous partageons chaque week-end sur Europe 1, depuis 4 ans déjà. Comment allez-vous mal ? Je vous pose cette question un peu provocatrice pour vous amener à vous arrêter un instant sur un comportement que nous avons tous. Avez-vous remarqué que quand on croise un ami, une copine, un collègue qui nous demande comment on va, et qui d'ailleurs au passage s'en fiche souvent complètement, nous avons tendance à parler tout de suite de ce qui ne va pas. « Oh là là, il m'est arrivé ça ! C'est affreux, tu vas pas me croire, mais bla, bla, bla !» Comme si parler de nos malheurs nous donnait une consistance, un intérêt que le bonheur n'aurait pas. Pourtant, s'il est essentiel de parler de ce qui ne va pas, il est tout aussi important d'être reconnaissant pour ce qui va bien, ne serait-ce que pour en prendre chaque jour conscience. Alors venez me parler de ce qui ne va pas et de ce qui va bien pour vous en ce moment. Partageons ce soir encore nos moments de vie et nos expériences. Je vous attends au 3921, le numéro de téléphone le plus facile à retenir, 3921 3921. Au bout du fil, vous aurez Cindy ou Nicolas, ils vous guideront ensuite jusqu'à moi. À la réalisation ce soir, nous retrouvons Pierre-Yves et notre Libre Antenne du vendredi commence dans quelques instants.
Sabine Marin est à votre écoute sur Europe 1.
La protection apportée par le vaccin contre le Covid-19 diminue après un certain temps. Il est donc important de faire une dose de rappel pour continuer à se protéger et à protéger les autres. Quand faire sa dose de rappel ? Dès 5 mois après la dernière injection ou infection Covid pour toutes les personnes de 18 ans et plus. N'attendez pas. Prenez rendez-vous chez un professionnel de santé près de chez vous ou sur www.sante.fr. Tous vaccinés, tous protégés. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
Ah, décembre. Les guirlandes, les lumières, la magie, mais aussi parfois le stress de dernière minute. Alors oui, mais non. Chez Cdiscount, Noël s'invite chez vous dès aujourd'hui. Retrouvez de nombreuses idées cadeaux en jouets, déco, high-tech. Commandez jusqu'au 22 décembre pour les recevoir en express avant Noël. Et oui, on a tous plein de bonnes raisons de faire appel à Cdiscount. Et avec nous, vous faites le choix du e-commerce français. Voir conditions de la livraison gratuite sur site.
Leclerc.
Ah, bon choix, madame.
Oh, merci, mais pourquoi ?
Vous avez pris un sac de 2 kilos de pommes gala.
Oui.
Cultivées en France dans des vergers éco-responsables.
Ouais, c'est super.
Et à 1,75€ le sachet de 2 kilos, soit 88 centimes le kilo.
C'est aussi pour ça que j'en ai pris.
Ben voilà, tout juste. Moi, je dis bravo.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 2 au 4 décembre, catégorie 1, calibre 115-150 grammes, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
Renault.
1984, Renault invente les voitures à vivre.
2021, Renault continue de se réinventer avec la gamme Renault E-Tech. 8 nouveaux modèles hybrides et électriques. En ce moment, découvrez notre nouvelle gamme Renault E-Tech à partir de 89€ par mois.
Twingo Electric Life hors option, l'aile des 37 mois, 22 500 km. Premier loyer de 7 853€ ramené à 0€ après déduction du bonus éco et de la prime à la conversion si éligible. Voir service-public.fr. Réservé aux particuliers jusqu'au 31 décembre, si Accordiac, voir Renault.fr.
Laissez votre message à Sabine Marin au 739-21. 75 centimes plus coût du SMS.
Et nous allons commencer cette émission du vendredi avec l'appel de Patricia. Bonsoir à vous, Patricia.
Bonsoir Sabine.
Bienvenue.
Oui, je vous appelle parce que j'ai mon fils de 38 ans et décédé d'un cancer. J'aurais voulu mourir à sa place. C'est pas normal.
Ouais, c'est vrai que c'est l'épreuve probablement la plus dure au monde pour une maman.
Bah oui, puis c'est arrivé il n'y a pas tellement longtemps. Il est mort le 30 août. Oui, on l'a enterré le 7 septembre.
C'est encore très récent, oui.
Et puis, je suis contente parce que j'ai été le voir. Il est à l'hôpital. J'ai été le voir et je lui ai dit au revoir à mon fils. Je t'aime. Il m'a répondu moi aussi. Je ne lui avais jamais dit.
Pourquoi vous ne lui avez jamais dit avant ?
Je ne sais pas. À ma fille, je lui dis tout le temps. À chaque fois qu'on s'appelle, je lui dis toujours je t'aime. Je vous aime tous les quatre parce qu'elle a 2 enfants. Bah, mon fils, j'ai jamais réussi.
Une pudeur, peut-être, parce que c'est un garçon.
Pardon ?
Une pudeur parce que c'est un garçon ?
Je sais pas. Je sais pas. Mais c'est dur pour une maman. Hein.
Alors, racontez-moi un peu sa vie à ce garçon. Vous avez eu, votre vie déjà, vous avez eu deux enfants, une fille et un garçon, c'est ça ?
Oui. Et puis, malheureusement, enfin, ma fille habite Poitiers, donc c'est très loin. Et alors, on me dit, pourquoi tu vas pas habiter à côté de ta fille ? Je peux pas laisser mon fils au cimetière tout seul. Je peux pas. Parce qu'en plus, il est enterré à 45 kilomètres de... à peu près 45 kilomètres de chez moi, dans son village.
Alors, pour l'instant, c'est peut-être un peu tôt, effectivement. Mais quel âge avez-vous, Patricia ?
Moi, j'ai 68. Je vais avoir 69 bientôt.
Donc, vous êtes encore jeune. Et lui, avec quel âge, m'avez dit ?
38.
38. Est-ce que c'est un cancer ? C'est un cancer, c'est un cancer qui a été diagnostiqué longtemps avant son décès ?
Ah non, juste un an. C'est le crabe. C'est le cancer du pancréas, c'est le plus mauvais. Plus mauvais. J'avais même une fois téléphoné à Olivier Delacroix et il me disait « C'est pas normal que des jeunes ils meurent d'un cancer du pancréas. » Les gens jeunes.
Oui, je comprends bien, mais il n'y a pas de normalité dans ce domaine-là.
Ben non. C'est pas normal, c'est moi qui aurais dû partir, pas lui.
Il n'y a rien de normal, vous savez, dans la vie. Il y a des enfants qui meurent très jeunes, à 5 ans déjà, d'un cancer, malheureusement.
Oui, je sais. Encore lui, il a fait un an, il y en a qui font 3 mois. Il y en a qui font que 3 mois. Hein.
Mais c'est beau ce que vous me dites là, Patricia. Vous avez pu vous dire au revoir et je t'aime tous les deux.
Oui, ça je suis contente parce que sa compagne, enfin, parce qu'ils sont pas que c'est comme une sœur femme, quoi. Elle nous a appelés, puis elle a dit, si vous voulez voir Arnaud, il faut venir le voir. Elle a même téléphoné à ma fille. Ma fille est descendue exprès aussi pour voir son frère. Mais, donc j'étais le samedi, puis j'étais le dimanche. Mon mari, quand il l'a vu, s'est effondré. Hein, parce qu'on nous a dit au démarrage, à un centre de rééducation. Mais c'était un centre de palliatifs.
De soins palliatifs, oui. Bien sûr.
Enfin, oui, il était branché de partout. Une sonde urinaire, il ne pouvait plus manger. Il y avait des trucs qui montaient comme ça. La morphine continue.
Mais il a quand même réussi à vous entendre et vous parler.
Ah oui. Il a résisté. Hein. Il a résisté pour essayer de nous parler. Il n'essayait pas de dormir. Il n'essayait pas de dormir. Mais c'est dur. C'est vraiment dur pour moi.
Bien sûr. Est-ce que vous avez de bons rapports avec sa compagne ?
Pas trop ?
Comment ça se fait ?
Ben, je ne sais pas, parce que là, par exemple, on va au cimetière. Alors, il dit qu'il ne faut pas aller au cimetière pour pleurer. Mais j'ai besoin d'aller au cimetière, même que je pleure, il faut que j'aille au cimetière. Et elle me dit, des fois, je veux passer la voir en même temps. Elle me dit, il faut que je la prévienne. Il ne faut pas que je passe sans la prévenir. Et aujourd'hui, c'est toujours l'anniversaire. Moi, je lui ai envoyé un message pour lui souhaiter bon anniversaire, tout ça. Et bon... Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'elle veut peut-être couper les ponts. Je ne sais pas.
Vous trouvez qu'il y a une certaine froideur entre elle et vous ?
Oui. Elle m'a dit une fois, oui, il faudrait que tu ailles voir un psychologue. Vous ne faites pas assez de choses ensemble, toi et Patrick, c'est mon mari. Vous ne faites pas assez de choses ensemble. Vous allez le regretter. Après, elle me dit, il faut préparer vos obsèques.
Oui, elle est très invasive pour une belle fille.
Ouais. Alors,
Et votre fille, elle vit ça comment ? Tout ça, toute cette situation-là ?
Oh ben c'est dur. Un peu en plus, elle a fait... On a voulu aider pour l'enterrement. Elle m'a dit non, je fais un enterrement civil. Et donc, je lui ai demandé... Ma fille, elle lui a demandé, est-ce que tu as besoin des photos ? Alors, elle lui a dit oui. Et ma fille, elle lui a envoyé plein de photos. Et quand l'enterrement civil il s'est fait... On était tous assis devant, masqués, bien sûr, avec le Covid. Et puis, ils nous ont ramené le cercueil de mon fils. Et après, ils ont montré Arnaud. Oh, je ne sais pas trop prononcer, on ne sait jamais. Ils l'ont montré avec sa femme, avec des amis. Il n'y avait eu aucune photo de moi, de mon mari, de ma fille et de mes petits-enfants.
Ah, vous n'avez pas pu vérifier ça avant avec elle, non ?
À mon idée, c'est...
C'était une évidence.
C'est sa sœur qui l'a fait, hein. C'est ce qu'on a pensé, parce qu'elle dit, elle a dit que c'était le... comment ça s'appelle celui qui s'occupe des obsèques qui faisait ça, mais c'est pas lui. Hein.
Bah non, c'est pas lui qui choisit, en tout cas. Ça, c'est sûr.
Bah non. Et par contre, on avait fait... j'avais fait un message que le monsieur a dicté. Et puis ma fille, elle avait fait un message aussi que monsieur, le maître de cérémonie qu'on appelle, voilà.
Il a lu
le
ça maître de... ouais.
Il a... Oui, il l'a lu. Bon. Il l'a lu. Mais après, tout... après, c'est comme si on nous mettait un coup de poignard, parce que tous les gens, ils passaient devant nous, ils nous embrassaient. C'est comme si on nous mettait un coup de poignard à chaque fois. On pleurait, puis nous, on n'avait plus de masque. Hein. On pleurait tellement, ma fille, tout ça, on se prenait tous dans les bras. On n'avait plus de masque. Et ben, à chaque fois, les gens passaient pour nous dire condoléances. C'est comme si on nous mettait un coup de poignard à chaque fois. C'est dur. C'était dur, mais j'ai jamais vu ça. Il aurait dû avoir un cahier pour signer, je sais pas moi.
Vous avez raison, c'est vrai qu'on devrait avoir le choix. On devrait ne pas être obligé d'avoir à subir finalement le malheur. Enfin, je comprends que ça, c'est un rituel, c'est une façon d'apporter de l'aide au conjoint ou à la personne qui est en deuil. Mais je comprends aussi que ça peut être très difficile à vivre, comme vous le dites, ouais, effectivement.
Ah, je vous assure que c'était comme si on nous avait mis un coup de poignard.
On a envie de fuir dans ces moments-là.
Oh là 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 là. Et puis mon mari, des fois, ça m'arrive, je pleure la nuit, il me dit, il me prend dans ses bras, il me dit, mais non, t'inquiète pas, ça va aller. Puis il me dit, Arnaud, il n'aurait pas voulu te voir pleurer comme ça.
J'allais vous dire, mais pourquoi est-ce que sa compagne vous dit qu'il ne faut pas aller pleurer sur sa tombe? J'ai un peu de mal à comprendre l'idée, là. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Pourquoi on n'aurait pas le droit d'aller pleurer sur une tombe?
Parce qu'elle dit que c'est pas normal qu'on va et qu'on pleure. Parce que nous, Lucas, quand on va, on dit bonjour mon fils, ça va, tout ça. Et puis je lui dis, tu sais, tu vas être content parce que maman, elle fait des activités au centre comme tu voulais. Je fais de la sophrologie, je lui dis, je fais des cours, tout ça. Mais bon, là, pour l'instant, je ne veux plus y aller parce qu'à cause du virus, puis comme il y a eu un virus dans le sang, qu'il y a eu quelqu'un qui l'a eu, pour la fin d'année, je ne veux plus y aller. Bien que demain, je vais faire mon rappel, mais je ne vais pas y aller. Alors,
Pour en revenir à ce qu'elle vous dit, tout le monde, et beaucoup de gens vont sur la tombe d'un proche pour parler et pleurer, c'est tellement normal, c'est tellement humain. Je ne vois pas où est le problème pour elle.
Bah oui, mais je ne peux pas être méchante parce qu'elle a fait une fausse couche, ils n'ont pas d'enfant.
Ah.
Donc je ne peux pas lui dire, tu ne sais pas ce que c'est.
Oui, mais on va éviter, évidemment. Ouais.
Bah, je ne peux pas.
Ce n'est pas la peine de la blesser davantage.
Bah non, non. Mais plusieurs fois, il nous dit il faut vous et Patrick aller voir un psychologue. Il faut que vous préparez vos obsèques, tout ça. Parce que c'est vrai, je comprends ce qu'elle dit. Parce qu'elle dit qu'ils avaient préparé leurs obsèques. C'est normal, à son âge.
Bah à 40, quand on est dans la quarantaine, on n'y pense pas vraiment encore. Hein. C'est un peu normal aussi.
Bah non. Alors du coup, elle a dû tout choisir, le cercueil, les poignées, tout ça. C'est ce qu'elle m'a dit. Mais nous, on lui a demandé de l'aide. Mais si elle voulait qu'on l'aide, mais elle n'a pas voulu. Alors, il y a juste que quand... parce que mon mari a vu que j'y étais, j'ai voulu aller voir mon fils. Comment on appelle ça? Sur un lit, vous savez.
Avant l'enterrement, vous voulez dire?
Oui, j'étais... que j'ai avant l'enterrement, puis j'étais toujours de l'enterrement. Il était beau, il était sur une planche, il était habillé, avec son costume, ses lunettes. Il était vraiment même beaucoup plus beau que quand je l'avais vu à l'hôpital.
Oui. Bah, la souffrance était partie. Hein.
Mon mari n'a pas voulu, par contre. Parce qu'il a eu un mauvais souvenir de son père, je ne sais pas quoi, il n'a pas voulu y aller. Et j'ai même été le jour de l'enterrement. Par contre, je n'ai pas voulu... J'ai pas voulu voir qu'on tombait dans le cercueil. J'ai pas voulu.
Mais tout ça se respecte. C'est-à-dire chacun a sa façon propre et intime de vivre un deuil. Il y a des choses que certaines personnes ne supportent pas, d'autres qui en ont besoin, au contraire. Donc il n'y a pas à juger ça. Il n'y a pas à dire c'est bien, c'est pas bien, tu dois pas, tu dois. Enfin, c'est tellement intime.
Parce que même ma fille, elle ne voulait pas. Puis elle a été quand même le voir avant de mettre dans le cercueil. Puis elle a été le voir et elle l'a vu quand on l'a mis dans le cercueil. Parce qu'il y avait. Les enfants, ma fille, elle a deux enfants, il y avait ses enfants, son fils était son filleul, et puis ma petite fille, ma petite fille, elle a fait un dessin, mon petit fils, il a fait une lettre, et qu'ils ont mis sur le cœur de mon fils avant qu'il ferme le cercueil. Vous voyez? Mais...
Oui, ce sont des gestes symboliques qui peuvent faire du bien, mais il ne faut jamais obliger quelqu'un à le faire non plus. Il n'y a pas plus qu'on oblige un enfant. Si l'enfant a envie de le faire, c'est très bien.
Non, mais c'est pas venu à la tête. Oh, excusez-moi, ils sont pas venus volontairement à eux. Ils sont pas venus. C'est pour ça qu'ils ont, ils ont fait ça pour avoir. C'était trop dur, même la petite fille de 17 ans, parce que, en plus, mon petit-fils qui a 13 ans, pour lui, personne ne doit mourir. Il ne comprend pas que les gens ils meurent. Ça, il ne comprend pas. Alors, Mais même le jour où je pleurais, quand j'étais, parce que j'étais passé 15 jours chez ma fille, je pleurais. Il dit, il ne faut pas avoir honte, mamie, tu pleures, c'est normal, hein, il me dit. Alors, il est mignon, mais bon.
Oui, c'est mignon. Mais vous savez, Patricia, moi, je rejoins votre mari. Je pense que si c'était vous qui étiez partie, vous croyez que vous auriez aimé que votre fille soit désespérée, pleure tout le temps et n'ait plus envie de vivre ? Ou vous auriez aimé qu'il poursuive sa route heureux ?
Bah, j'aurais voulu qu'il soit heureux.
Et ben voilà.
En plus, il y avait une femme qu'il connaissait depuis 15 ans. Il avait un beau boulot. Il y avait tout pour être heureux. Tout pour être heureux.
Mais de là où il est aujourd'hui, vous ne pensez pas qu'il aimerait vous voir apaisée ? Et pas malheureuse comme ça?
Moi, la seule chose qui me console, c'est que je me dis, au moins, il ne souffre plus.
Oui.
C'est la seule chose, parce qu'il souffrait quand même. Il souffrait.
C'est ça qui est terrible quand on aime quelqu'un, finalement, c'est de le voir. C'est une dégénérescence, une souffrance pendant des mois et des mois et des mois, c'est insupportable.
Bah, puis, il était un petit peu négligent, parce que ça faisait longtemps qu'il devait faire une prise de sang, il ne l'a pas fait. Il était négligent sur sa santé, tout ça.
Vous voulez dire que si ça avait été pris en charge plus tôt, ça aurait pu être soignable ?
Bah, je ne sais pas, parce qu'il a été à l'hôpital Beauchamp, et puis on lui a dit qu'il n'était pas opérable. S'il n'est pas opérable, il n'y a pas de chance. Parce que nous, on a eu un peu d'espoir, parce qu'il a fait des séances de chimio, après il a refait un scanner, et sa tumeur, elle avait diminué une moitié.
Oui,
donc, on avait d'espoir, quoi. On ne pensait pas que ça allait finir comme ça, quoi.
Mais les médecins vous ont laissé un espoir ou c'est vous qui avez vraiment espéré malgré tout ?
Ben, c'est même mon fils, il me disait que quand il faisait une prise de sang, il disait les résultats ils sont bons. Lui aussi, il nous donnait de l'espoir. Je pense qu'il y avait de l'espoir. Il n'y a qu'à la fin, quoi. Je pense qu'il s'est rendu compte parce qu'il a dit à sa compagne, tu fermes la fenêtre. Et tant qu'elle a fermé la fenêtre, il est parti. Il n'a pas voulu qu'elle... Je sais pas si je m'explique bien. Il n'a pas voulu. Mais elle n'a pas été invisible non plus, hein, parce qu'elle me disait aller à côté de lui, parce que si on prenait lui la main, elle n'a pas été invisible. Hein, je peux pas dire là-dessus, elle n'a pas voulu tout l'avoir pour elle.
Elle a quand même pensé à vous appeler, à vous ouvrir la porte, quoi.
Ouais, parce que même à sa soeur, elle a téléphoné à sa soeur pour dire si elle veut voir son frère, il faut qu'elle vienne maintenant, quoi.
Oui, vous m'avez dit ça.
Mais elle allait le voir tous les jours, hein, parce qu'elle travaillait tous les jours. Elle dit, bah, c'est normal, elle dit, ce serait votre mari. Elle dit, vous irez le voir tous les jours aussi. Hein. Elle dit, c'est normal hein, que j'aille le voir tous les jours. Hein.
C'est dommage que vous n'arriviez pas à avoir toutes les deux un lien qui vous permette de vous aider, de vous épauler.
Je ne sais pas. Ouais, c'est bien que c'est dommage.
Comment ça se passait avant son départ à votre fils ? Est-ce qu'il y avait déjà des liens un peu froids entre elle et vous ou ça s'est refroidi depuis ?
Ben, écoutez, je vais vous dire, l'autre jour, elle marque, parce que je suis sur Facebook, elle remarque sur Facebook, elle met la chanson de Louane. Est-ce que tu m'entends ? Est-ce que tu me vois ? Vous connaissez ?
Bien sûr, elle est magnifique cette chanson.
Ah oui, elle est magnifique. Alors moi, je lui mets un petit message. Je suis sûre qu'il te voit, qu'il t'entend. Et elle me répond... J'en suis sûre, j'en ai la preuve. Et je vais vous raconter quelque chose. Une fois avec ma fille, comme ça, on était tous les deux, on parlait, la télé est allumée. On parlait de mon fils, enfin, elle de son frère, moi de mon fils. Et d'un seul coup, la télé, le son s'est remonté d'un seul coup tout seul. Alors ma fille, elle dit, tu vois, ça c'est un signe d'Arnaud. Un signe d'Arnaud, parce que moi j'ai de la misère à croire, hein, ça va. J'ai de la misère à croire.
Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui parlent de signes comme ça, beaucoup avec les lumières, effectivement, une lumière qui s'allume ou qui s'éteint, un son qui monte. Oui, j'ai entendu beaucoup de témoignages comme ça, donc c'est vrai que ça pose question. Après, on se dit, qu'est-ce que c'est réellement ?
Sa compagne, elle dit qu'elle elle sent qu'il met sa main sur son épaule, des fois.
Ça aussi, beaucoup de gens le disent, la sensation de sentir physiquement la présence de l'autre.
Ouais.
Maintenant, quand on ne l'a pas vécu soi-même, c'est compliqué à admettre et à comprendre.
Mais bon, vu que ma fille m'a dit ça, je pense que c'est vrai, quoi. ma fille ne me raconterait pas des conneries, hein, de toute façon. Et puis c'est vrai que le son s'était remonté. Alors c'est sûr que c'est un signe d'Arnaud. Hein. Mais j'arrive pas par contre à rêver de lui. Je sais pas pourquoi.
Parce qu'il y a encore trop de chagrin et que c'est un peu tôt. Pour arriver à être dans une connexion par les rêves, il faut qu'il y ait de l'apaisement. Et c'est encore trop, c'est encore trop frais, là. C'est très récent, finalement.
Ah bah oui, c'est récent. Hein. Oui, ça arrive, je vous dis, est enterré début septembre. Alors,
Et le chagrin, c'est comme un court-circuit, si vous voulez.
Ouais.
Il faut laisser le chagrin passer, c'est normal, il y a un temps pour tout. Hein. Il y a des phases dans le deuil. Et quand on arrive à l'apaisement, alors c'est plus simple d'être en connexion avec la personne et de se sentir rassuré.
Je ne comprends pas pourquoi c'est pas moi qui est mort à sa place. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre.
Mais malheureusement, Patricia, il n'y a rien à comprendre. La vie n'est pas un déroulé logique.
Ben oui, si.
Et ça, on le sait, c'est la règle du jeu, malheureusement, pour tout le monde depuis le départ. Personne ne sait quand est-ce qu'il partira ni comment.
Mais c'est dur pour une maman.
Ben, c'est plus que dur pour une maman, évidemment.
Parce que c'est notre chair de notre chair, quand même. Même mon mari dit, parce qu'il s'y a souvent courbé, alors mon fils dit « Papa, redresse-toi ». Alors comme je suis encore du jardin, eh ben, il dit « J'ai l'impression qu'Arnaud, des fois, il me dit « Je me redresse parce qu'il me dit « Faut que tu te redresses, papa ».
Il entend la petite voix encore qui lui dit ça, ma vie.
Pardon ?
Il entend la petite voix de votre fils qui lui dit cette petite phrase-là.
Ouais, ouais.
Mais dans votre malheur, Patricia, vous êtes quand même très entourée. Vous avez un mari qui est présent, vous avez votre fille.
Mmh.
Les petits-enfants aussi qui sont là ?
Oui, puis justement, tout à l'heure, elle m'a téléphoné parce qu'ils vont à un mariage demain. Alors j'ai dit, fais attention au virus parce que j'ai peur. Alors elle dit, mais non, t'inquiète pas, moi, on va faire attention. Et puis en plus, elle a son mari qui a été greffé d'un rein. Alors donc, il faut que je fasse bien attention. Et puis là, elle m'a dit que, comme il y a ma petite fille qui va avoir son anniversaire au mois de décembre. Elle va lui laisser, elle va avoir 17 ans, donc elle va lui laisser sa maison. Et elle viendra nous chercher, on ira passer Noël chez elle.
Ah ben voilà, un geste agréable et sympathique.
Mmh. Ouais, elle nous arrange bien. L'autre jour, elle nous a trouvé un covoiturage. Ça ne nous a pas coûté très très cher. Et puis le mec était vachement sympa et tout. On a toujours tourné à plein, parce que lui, il monte à Bordeaux. Mais c'était bien, mais par contre, on n'en a pas retrouvé en revenant. Parce que le problème, c'est pas qu'on n'en a pas retrouvé en revenant, c'est que comme la voiture, mon mari l'a laissée chez ma belle-fille, et quand on aurait le covoiturage, il nous aurait ramené qui faisait nuit, mon mari, il ne faut pas faire la nuit pour conduire. Donc c'était, et puis moi, je ne conduis pas, donc c'était impossible, quoi. Alors, donc, du coup, ma fille, elle m'a ramené, et après, elle a pris la voiture de son père, et puis mon gendre, il a pris la voiture, sa voiture, quoi.
Je repense à votre belle-fille. Est-ce que vous auriez envie, vous, que ça se passe mieux avec elle, que les relations soient quand même plus apaisées ?
Bah oui, mais je pense pas que c'est parce qu'elle veut faire du mal. Je pense pas parce qu'elle a son chagrin aussi. Peut-être.
Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Il faut aussi comprendre qu'elle est en train de traverser elle aussi un deuil très difficile.
Bah oui, c'est ce que je pense.
Et que peut-être le chagrin la rend maladroite vis-à-vis de vous.
Oui.
Est-ce que vous pourriez peut-être lui proposer d'aller prendre un café avec elle, de vous parler toutes les deux ?
Ben, elle me paye un thé quand je vais chez elle. Hein. Mais il faut que je la prévienne, par contre. Elle m'a dit qu'il ne faut pas que je passe sans la prévenir.
Bon, ça, après, c'est son droit. Il y a des gens qui n'aiment pas être dérangés sans être prévenus.
Mmh.
Surtout dans une période un peu difficile comme ça. Elle n'a peut-être pas envie que vous la trouviez en larmes ou je ne sais pas. Ça, c'est sa liberté. Mais en dehors de passer chez elle, est-ce que vous ne pourriez pas, vous, lui tendre la main en lui disant « Viens, on va à l'extérieur ». On va prendre un café quelque part ou déjeuner, manger un morceau toutes les deux, juste toutes les deux pour.
Parce que moi, je lui ai déjà dit, hein, tu peux venir quand tu veux, si tu viens à la maison, tu préviens, tu manges à la maison, tout ça. Il dit, je ne sais pas si je descendrai où j'habite, quoi. Parce que pour. Comment je veux dire ? Pour l'enterrement, c'était soit dans ma ville où j'habitais, ou soit dans sa ville. On pouvait pas, elle pouvait pas, elle voulait le mettre ailleurs, mais elle a pas pu. Alors c'est pareil, elle m'a demandé une fois d'aller chercher un extrait de naissance, parce qu'il était marqué qu'elle était paxée avec lui depuis je sais pas combien de temps qu'ils sont paxés ensemble. Ça fait 15 ans qu'ils se connaissent, hein. De toute façon ça c'est clair, mais ils sont paxés. Hein. Du coup j'ai été lui chercher son papier, tout ça, je lui ai donné.
J'aimerais revenir sur quelque chose que vous m'avez dit tout à l'heure, Patricia. Vous m'avez dit, je ne peux pas, j'aimerais bien aller vivre plus près de ma fille, mais je ne peux pas laisser mon fils au cimetière.
Oui.
Et pourtant, vous savez bien que ce n'est pas là qu'il est.
Oui, mais parce que déjà, j'ai mal quand je pense que dans 6 mois, il n'y a plus rien dans la tombe. Le corps a disparu.
Mais vous savez déjà qu'il n'y est pas dans la tombe. L'âme, elle n'est pas là. Hein.
Ça fait mal. Parce que pour l'instant, il n'y a pas la tombe, hein, parce qu'on ne peut pas. Il faut attendre je ne sais pas combien de temps avant de mettre une plaque, tout ça. Alors, parce que sa compagne, elle a quand même fait un emplacement pour 2 personnes pour 50 ans. Hein. Donc je pense qu'elle compte...
Une concession, vous voulez dire,
oui. Je ne sais pas comment ça s'appelle, excusez-moi.
Je crois que c'est une concession, oui. Peu importe.
Enfin, c'est le trou, c'est comme la tombe, quoi.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'il arrivera un moment où, c'est normal pour l'instant, tout ça est encore très frais, il arrivera un moment où vous réaliserez qu'il n'est pas là. Et là, vous pourrez vous autoriser à bouger, à vivre votre vie, là où vous avez envie d'être.
Mais sa compagne, elle m'a dit, mais il ne sera pas tout seul, moi je serai toujours là. Quand je lui dis, je ne peux pas aller chez ma fille, elle me dit, mais si, elle dit, vous pouvez y aller. Elle dit. Puis après, je dis, bon, mes petits-enfants, ils commencent à être grands, ils vont peut-être plus vouloir trop près de leur mamie, je ne sais pas comment je m'explique mal.
Profitez de vous.
Oui, oui. Parce que quand ils sont petits, bon, parce qu'à chaque fois qu'on arrive, ils sont contents, ils nous sautent dans les bras, je t'aime, mamie, tout ça. Ils sont vraiment heureux, quoi.
Bah, c'est pour ça que peut-être c'est dommage de vous priver d'eux, non ? Vous ne trouvez pas ?
Bah oui.
Il y a combien de kilomètres de distance pour aller jusqu'à chez votre fille ?
Bah, chez ma fille, il y a 450 kilomètres. Hein.
Bon, 450 kilomètres, vous pourriez dire que 2 fois dans l'année, vous venez sur sa tombe, par exemple. C'est pas infaisable.
Bah, le problème, c'est que mon mari, c'est pas, moi, je ne conduis pas, puis il y a des problèmes de vue, puis je ne suis pas un bon copilote. C'est ça, le problème.
Et votre fille ne pourrait pas vous amener ? Ou son conjoint.
Ma fille, elle vient me chercher. C'est pour ça qu'à Noël, elle va venir me chercher.
Non, mais dans le sens inverse, si vous vous installiez là où elle est, pour être plus proche d'elle et des petits, vos petits-enfants...
Ah oui, j'ai pas compris.
Elle,
oui.
Elle pourrait vous amener une fois de temps en temps sur la tombe de votre fils.
Je sais pas.
Mais vous verrez très vite, vous allez ressentir que c'est pas là qu'il est, de toute manière. Mmh. Ça n'est qu'un symbole, la tombe.
Mais de toute façon, parce que moi, la soeur de mon mari a perdu un fils. Et quand elle est passée devant nous, elle lui a dit, elle a dit à son fils, « T'accueilleras bien ton cousin. Mm-hmm. » Vous comprenez qu'est-ce qu'elle a voulu dire qu'elle accueille. Parce que ça a été dur aussi pour elle. Elle le dit, elle va au cimetière, elle parle aussi à sa tombe. Hein. Elle me le dit, ma belle-sœur. Hein.
Bah, évidemment, mais je pense que tout le monde fait ça. En tout cas, la majorité des gens. Mais je crois qu'il ne faut pas juger trop vite votre belle-fille. Elle est elle-même aussi dans un processus de douleur et de chagrin et qu'elle peut être maladroite probablement aussi.
Hein. Je vais essayer la prochaine fois de lui demander si elle veut que je... Parce que c'est pareil, mon mari, il allait travailler 2 fois par semaine chez son fils. Et elle dit comme ça, il dit si tu veux, je vais venir ramasser les feuilles, enfin, faire ce qu'il y a à faire. Quoi. Mm-hmm. Mais apparemment, ça ne l'intéresse pas. Elle ne veut pas.
Oui, mais je crois que c'est pareil. Oui. Elle est en train de faire son deuil, Patricia. Il faut aussi comprendre ça.
Bah oui, parce que quand elle m'a parlé de la chanson, parce qu'elle m'a dit encore, vous ne voyez pas souvent qu'elle m'a répondu.
Oui, c'est un peu maladroit aussi, mais bon. Oui. Une fois encore, je pense que tout le monde est plutôt gentil dans cette famille. C'est juste qu'il y a du chagrin, et le chagrin, chacun le gère comme il peut. Oui. Et quelquefois, ça donne lieu. On peut être maladroit, voire méchant quand on a de la peine. C'est pour ça que je pense que si vous pouviez lui tendre la main, vous verriez un petit peu que si elle accepte de s'ouvrir à vous. Vous pourriez chacune être un soutien pour l'autre.
Oui.
Et puis laisser le temps au temps, il n'y a que ça. Et vous dire chaque jour, est-ce que vous avez l'impression qu'il éveille sur vous, votre fils ? Est-ce que vous sentez sa présence ?
Pas tellement.
Pas tellement ?
Non, pas pour l'instant.
Bon.
Mais c'est vrai que je voyais... Mon mari le voyait beaucoup plus que moi.
Il faut laisser le temps du deuil se faire, étape par étape, tranquillement. Parce que c'est vrai, vous avez raison, c'est la chose la plus anormale, si on peut dire, du monde, de perdre un enfant. Malheureusement, une fois de plus, il n'y a aucune normalité dans la mort. Ouais. Ça n'est pas dans la logique de la vie. C'est vrai que normalement, On perd d'abord ses parents, mais malheureusement, dans le réel de la vie, c'est pas toujours comme ça que ça arrive. Et rien ne nous prépare à ça, jamais.
Je m'en doute.
Et quand on est confronté, ben on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mais je trouve vraiment très, très beau que vous ayez pu vous dire au revoir tous les deux. C'est très important pour vivre la suite de manière plus apaisée. C'est une belle image là, que vous nous avez transmise.
Je suis au téléphone. Je t'explique, c'est mon mari. Je t'explique après.
Vous l'expliquerez, vous lui ferez écouter l'émission.
Non, parce que mon mari ne comprend pas. C'est avec Europe. On parle, c'est une dame qui s'appelle Sabine qui discute avec moi. N'importe quoi, qui me dit, moi, du tout.
Comment ça, n'importe quoi? Bah, qu'il allume la radio, il verra bien si c'est n'importe quoi. Comment s'appelle votre mari?
Patrick.
Mais dites donc, Patrick, c'est pas n'importe quoi, c'est la libre antenne d'Europe 1. Mon fou.
Écoute, elle te parle. Viens voir. Patrick, elle t'appelle. Elle te dit que c'est pas n'importe quoi. Eh ben, je te dis, Pat, avec Sabine
ça.
De Europe 1.
Bonsoir Patrick.
Elle t'expliquera après. Attends, elle te dit bonsoir. Tiens, écoute. Écoute.
Bonsoir Patrick.
Non, il a fermé la porte.
Il est de nous prendre pour deux folles, j'ai l'impression.
Il ne croit pas tous ces trucs-là.
Il ne croit pas tous ces trucs-là, parce que la radio, c'est une croyance maintenant.
Non, mais je veux dire. Parce que c'est comme moi, au démarrage, j'étais connue. Un endroit, puis il y a une dame qui me discutait justement de la peine que j'avais par rapport à mon fils. Quoi.
Écoutez, vous lui ferez écouter l'émission demain, votre mari, il verra que c'était pas une blague. C'est mignon. Ah, en tout cas, vous n'êtes pas seule, Patricia, et je suis persuadée que petit à petit, la peine va s'atténuer. Et que si vous êtes restée sur Terre, il faut vivre pour lui maintenant.
Ben oui, parce que j'ai bien qu'il n'y aurait pas... Ouais, c'est saloperie de cancer.
Ah, ça.
Le crabe.
Oui,
il habitait à Robert à Paris, là, Beauchamp, et puis il ne pouvait pas être opéré.
Mais non, malheureusement, on n'arrive pas encore à bout de tout. Hein. De gros progrès sont faits, mais malheureusement, pas encore dans tous les domaines du cancer. C'est terrible, c'est vrai que c'est terrible.
Ouais.
Mais dans votre cœur, il est toujours là. L'amour, ça ne s'efface jamais, vous savez, surtout l'amour d'une mère.
Ah oui, c'est ce qu'elle me dit. C'est comme. J'ai une cousine, enfin une nièce, je lui dis Arnaud me manque. Elle me dit oui, elle dit mais t'inquiète pas, il sera toujours dans ton cœur, tata.
Et vous voyez, il y a Blandine qui vous envoie un petit message avec un cœur et qui vous dit allez auprès de vos enfants et petits-enfants, de votre fille et de vos petits-enfants, c'est là qu'est la vie.
Oui. On vous dira merci.
Et je suis assez d'accord avec elle. Allez vers la vie.
Oui.
Pour votre fille, justement. Pour sa mémoire. Vivez pour deux. Patricia, je vous serre dans mes bras très très fort.
Je vous embrasse et je vous remercie de m'avoir écoutée.
Et allez dire à votre mari que ce n'était pas une blague. D'accord.
D'accord, merci.
Je vous embrasse fort, Patricia.
Bisous.
Sabine Marin est à votre écoute sur Europe 1.
Rugged Bone Man, me dit Pierre, ah bon, c'était pas marqué sur ma petite fiche, alors comme je ne connais pas. Rugged Bone Man, ok, c'est corrigé. Merci Pierre. C'est Angèle que j'accueille maintenant avec plaisir sur la Libre Antenne. Bonsoir Angèle. Allô? Allô, allô?
Oui, vous m'entendez?
Ah, bonsoir Angèle, oui, ça y est, je vous entends maintenant.
Oui, voilà. Je voudrais témoigner sur ce que cette pandémie va nous laisser pour certaines personnes.
Oui.
Voilà, moi j'ai pris ma retraite il y a juste 2 ans et demi.
Ah, bon moment.
Oui, au bon moment, oui. Alors, je n'en ai pas profité parce que, voilà. Et puis, je devais faire des voyages, tout était annulé. Donc, j'imagine que le troisième de carnaval, mon premier voyage que je devais faire, c'était le carnaval de Nice. J'imagine que qui va encore être annulé cette année. Mais bon, je me suis réinscrite pour le faire. Mmh. Mais bon, j'y crois plus. Et puis voilà, j'ai ma maman qui a 90 ans, donc qui a eu, là, on lui a fait à domicile sa 3e vaccination. Et moi, j'ai eu la mienne parce que j'ai des gros, gros problèmes de santé. J'ai 66 ans, mais j'ai perdu un demi-poumon. Donc, m'a fait, voilà, la semaine dernière.
Vous êtes prioritaire, forcément, oui.
Oui, voilà, c'est ça. Donc, je l'ai faite. Mais voilà, à force de nous isoler, on commence un petit peu à avoir un peu de dépression, quoi. Voilà, c'est ça.
Mais on le sait, c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de séances chez les psys sont un petit peu remboursées. Alors attention, il faut mettre un bémol là-dessus, parce que c'est un remboursement sous condition.
Oui, non, mais pas nous, dans les camps, les fins fonds de la campagne, on n'a pas de psychologue, on a... Ben non, dans les petits fins fonds de la campagne, on n'a pas de psychologue, on n'a rien.
Il y en a qui fonctionnent par téléphone, mais, non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on s'est parfaitement reconnu que évidemment dans les effets secondaires, si je puis dire, de cette crise pandémique, c'est que même ceux qui n'ont pas été malades physiquement ont développé des dépressions graves, notamment les jeunes aussi. Il n'y a pas que les personnes âgées. Hein. Beaucoup d'étudiants ont été au bord du suicide.
Je sais bien parce que mes petits enfants se sont fait vacciner pour pouvoir revivre une vie de jeune, quoi. Mmh.
On leur a volé presque 2 ans de leur vie d'étudiant. Hein,
oui, voilà. Ma petite fille était en première année de fac, elle n'a pas été à la fac, voilà, elle a raté totalement sa fac de droit, donc elle a fallu qu'elle se réoriente, etc. Mais voilà, donc c'est totalement compliqué. Et puis, nous, dans les petites campagnes, on a l'impression qu'on voit ça totalement de Paris ou je ne sais pas. Mais après, on a l'impression qu'il y a tellement une... après le parisianisme.
Est-ce que vous êtes en train de me dire que ça vous paraît un peu irréel, finalement, de loin, tout ça?
Ah bah oui, le parisianisme, ce qu'on nous fait croire là-bas, là-haut, que tout va bien se passer. Moi, pour avoir ma 3e dose, j'ai passé 4 heures au téléphone. Alors que j'étais prioritaire, avec un demi-poumon en moins, etc. quoi. Parce qu'on... Bah c'est vrai que je ne suis pas du tout politicienne, mais rien. On a l'impression que tout est vu de Paris ou la région parisienne. Et puis, et c'est ça qui fait malheureusement une distension entre les campagnes et les villes, quoi.
Mais attendez, vous croyez que c'est plus facile à Paris, par exemple, le vaccin, la 3e dose?
Je ne sais pas.
Ah ben moi, je vais vous le dire, ça fait 10 jours que j'essaie, j'ai passé des heures sur Internet et j'ai toujours pas de place.
Oui, voilà, c'est ça. Mais après, quand on nous dit qu'il faut rouler avec des véhicules, ben voilà, mais moi, je suis à 30 km des plus proches villes de chez moi. Je ne peux pas véhiculer en électrique. Il n'y a pas du tout de bus, etc. Les plus grandes villes, moi je suis, je vais vous dire, je suis dans la Manche. Donc, comme diraient mes petits-enfants, parce que quand je leur dis, ou un autre département, je leur dis toujours, c'est le petit doigt entre la Bretagne et les Hauts-de-France. Donc, vous voyez où c'est la Manche?
Oui, je vois où c'est la Manche, oui.
Oui, voilà. Donc, je dis toujours, c'est le petit doigt là-haut, quoi. Mais c'est vraiment, il n'y a rien, à part Cherbourg, les centrales nucléaires et le machin. Et puis, après, il n'y a plus rien, quoi.
Mais ça, ce n'est pas lié au Covid, Angèle.
Non, je sais bien.
Cet isolement, vous l'aviez avant, déjà.
Oui, mais on ne ressentait pas comme maintenant. Non, on ne ressentait pas comme maintenant. Et puis, c'était sûrement avant. Mais maintenant, pour avoir un rendez-vous chez le dentiste, il faut un an. Chez l'ophtalmo, il faut un an. Voilà.
Ouais. Il est clair que de toute façon, ce Covid aura des dégâts collatéraux, comme on appelle ça, dans plein de domaines.
Oui.
Maintenant, il y a 2 solutions. Soit on s'assoit par terre et on pleure, soit on se dit qu'il faut qu'on trouve des solutions pour réinventer une vie différente. Et c'est ce qu'on est tous en train de faire pour avancer quand même.
Oui, après, moi, je veux bien réinventer une vie nouvelle. Mais moi, je voudrais fêter les fêtes de Noël normalement, quoi, avec ma maman qui a 90 ans. Elle a eu sa 3e dose. Heureusement, j'ai réussi à la faire faire parce qu'elle est handicapée, donc elle ne peut plus bouger. Donc, j'ai réussi à la trouver à 0800. Ils ont fait sa 3e dose à domicile. Moi, j'ai eu la mienne.
Bon, bah donc, tout va bien.
Oui, voilà. Mais après, l'isolement se fait de plus en plus, quoi. Ma maman, elle ne voit plus... Avant, elle avait plein de personnes âgées qui venaient la voir. Et puis maintenant, tout le monde s'isole, quoi.
Eh oui, malheureusement, mais ça, on le sait, hein, ça fait 2 ans que maintenant, les relations, même pas que avec les personnes âgées, je vous dis, même les jeunes s'isolent de plus en plus. Moi, je suis surprise d'entendre, par exemple, que des jeunes ne sont pas retournés au cinéma depuis que le déconfinement est arrivé. On a pris des habitudes de se replier sur soi, beaucoup.
Oui, voilà. Alors moi, j'ai ma petite fille qui avait fait une année en droit, mais qui l'a complètement ratée, malheureusement. Et puis, voilà, avec distanciel, etc. Et puis, je ne la vois pas très, très souvent. Et puis maintenant, on se fait tous les 15 jours un resto toutes les deux, quoi.
Ah, ça, c'est sympa, bah, vous voyez.
Mais c'est difficile, quoi. Après, je voudrais réunir... Après, je voudrais faire des fêtes de Noël, mais bon, je ne veux pas mettre ma maman en danger, quoi. Alors, après, bon, j'ai... presque tous mes enfants et mes petits-enfants sont vaccinés, sauf une de mes filles qui ne veut pas en entendre parler. Donc, elle n'a pas eu la première, ni la deuxième, ni la troisième dose. Donc, voilà. Et totalement, voilà. Donc, mais je trouve que là, on s'isole. Et puis moi, franchement, moi qui étais... je vivais à la campagne depuis... j'ai toujours vécu à la campagne, quoi. Voilà. Mais... je me sens, le Covid, c'est comme une isolation, quoi.
Mais oui.
Parce que avant, j'allais faire mes courses, mais le masque, ça isole de tout. Bon, après, j'avais mon mari est mort il y a 20 ans, donc d'un cancer, et puis voilà. Et donc j'avais mes relations, etc. Mais maintenant, tout est conditionné par rapport au masque. Alors moi, vu que j'ai un demi-poumon en moins, j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés à respirer derrière un masque. Donc je ne peux pas faire une demi-journée derrière un masque. Moi, le maximum, c'est 2 heures, quoi. Oui. Donc, parce que j'ai perdu la moitié d'un poumon, donc... c'est compliqué. On s'isole de plus en plus. Et puis, moi, je me sens de plus en plus déprimée. Parce que, bon, moi, je dois assumer ma maman. Mais après, je l'assumais avant. Mais voilà. Mais mes enfants sont là. Mais c'est compliqué, quoi. Parce que moi, mes amis, je les vois de moins en moins.
Alors, c'est toujours pareil. Je comprends tout ce que vous me dites, bien sûr. Et puis, je le vis aussi. Et puis, des amis à moi le vivent. Mais il y a deux manières de voir les choses. Soit on se lamente et on se dit vraiment c'est triste, on se sépare, on s'isole, on n'en sort pas. Soit on se dit aussi qu'on a la chance d'être toujours vivant, parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on aimait qui sont partis de ce virus. Et nous, on est encore là, on a encore cette chance-là. Hein. Moi, je me souviens au tout début, quand ça a commencé, la panique qu'on avait de perdre tous les gens qu'on aime. On avait l'impression qu'on allait mourir à chaque coin de rue, rappelez-vous, hein, au début.
Oui, pas forcément nous à la campagne.
Alors
quoi.
Peut-être vous un peu moins, mais dans les grandes villes, je peux vous assurer qu'on voyait les voisins qui prenaient des gants pour appuyer sur les boutons de l'ascenseur, qui partaient en courant quand ils vous croisaient dans un couloir. Enfin, c'était tout le monde était terrorisé à cette époque-là. On a la chance d'avoir traversé ça, d'être encore en vie. Ensuite, on a une autre chance, c'est qu'il y a des technologies aujourd'hui qui nous permettent de nous parler, de nous voir, comme si on était proches.
Ah non, mais moi, non.
Ah bah oui, mais vous non, mais ça existe quand même. Et à 66 ans, c'est pas le bout du monde d'apprendre à servir d'une tablette, par exemple.
Ben oui, j'ai une tablette, oui, je sais, mais ça n'a rien d'amical, c'est impersonnel, c'est pas...
Ah ben, c'est très personnel quand on parle à quelqu'un et qu'on le voit de près.
Non, mais après, moi, je sais pas me servir ce truc de webcam ou je sais pas trop, et puis voilà... Moi, j'ai mes petits-enfants, que même si je les vois très, très peu, qu'ils viennent me voir, quoi.
Et bien, la prochaine fois qu'ils viennent vous voir, demandez-leur qu'ils vous installent une application simple pour vous montrer comment ça fonctionne. Vous avez juste appuyé sur un bouton pour les voir et leur parler.
Oh non.
Non, bon, bah alors, c'est non.
Non, c'est totalement impersonnel. Non, pour moi, c'est matériel. Voilà, donc pour l'instant, je les isole de ma maman, qui va fêter ses 90 ans le 24 décembre.
Donc, elle est née le 24 décembre en plus ?
Oui.
C'est amusant.
Elle est née le 24 décembre, mais on ne lui a jamais souhaité. Mais bon, après, ma maman a eu une enfance très, très difficile. Donc, voilà. Puis, ma maman, c'est Cosette, quoi.
Ah.
Donc, voilà. Elle a perdu sa maman, elle avait 5 ans. Elle a eu une belle-mère. C'est vraiment... Maman, c'est Cosette, c'est ce que je dis toujours, quoi. Elle a une belle-mère qui l'a martyrisée, qui lui a brûlé les cheveux parce qu'elle avait des poux. Donc,
Oh, mon Dieu.
En 1945, sa belle-mère, alors, rendez-vous compte, parce qu'en 1945, maltraitance à l'enfant, ça n'existait pas.
Oui, évidemment. Oui.
Donc, sa belle-mère a été condamnée à 9 mois de prison pour avoir martyrisé maman et son frère. Donc, elle avait enfourché mon oncle. Elle l'avait piqué avec une fourche, quoi. Et maman, elle lui avait brûlé les cheveux parce qu'elle avait...
Effectivement, c'est une résiliente, cette dame. Hein.
Comment ?
C'est une résiliente, votre maman. Elle a surmonté tout ça ?
Oui, oui, mais elle ne nous a jamais donné d'amour.
Mais vous vous rendez compte, là, en me racontant ça, qu'elle n'a pas pu ?
Oui, voilà, elle n'a pas... Oui, mais je ne lui en veux pas du tout.
Oui, hein. J'entends bien, ouais.
Non, j'en veux pas à ma maman, pas... mais après, elle est très... Voilà, après mon frère, malheureusement, elle a eu deux enfants, moi, et puis après mon frère, et puis malheureusement, moi, je ressemble à mon père, j'étais ronde, et mon frère était comme elle, très grand et très chevelu, c'est mon frère était jockey, donc vous voyez la taille d'un jockey, donc voilà. Et maman m'a jamais aimée, puis elle me reproche même encore maintenant, à 90 ans, peut-être un peu moins, parce que maintenant elle perd un peu les pédales, mais que si j'étais ronde, c'était de ma faute, c'était un manque de volonté, etc. Mais voilà, après... Non, mais maman, je n'en veux pas, vu tout ce qu'elle a vécu et tout ce qu'elle a survécu, elle a... Voilà,
elle a fait ce qu'elle a pu, oui. Oui.
Voilà,
dites-moi, Angèle, parce que là, on va beaucoup plus loin, et c'est intéressant, on va beaucoup plus loin que la solitude. Si vous le permettez, on va continuer à discuter, mais juste après les infos, d'accord ?
Oui.
Hein, je vous laisse patienter quelques instants, vous ne raccrochez pas.
Oui, merci.
Et on se reparle après les infos.
Oui.
Merci, à tout de suite.
Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
Rejoignez sur cette deuxième heure de Libre Antenne sur Europe 1. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 1h du matin. Et vous pouvez bien sûr continuer à nous appeler. Vous faites le 3921 si vous avez envie de parler ce soir, de vous confier. 3921, Cindy et Nicolas sont là au standard. Ils vous attendent, ils vous guideront ensuite jusqu'à moi. Si vous avez envie d'intervenir par SMS, d'enrichir le débat, de donner votre avis, d'apporter un soutien, de demander à être mis en contact avec quelqu'un hors antenne, eh bien vous faites le 73921 suivi du mot nuit et de votre message et je ferai le relais. Enfin, je vous rappelle notre adresse mail, libreantenne en un seul mot, libreantenne@europe1.fr.
Sur Europe 1, la libre antenne, Sabine Marin.
Et je vous retrouve, Angèle, vous êtes là ?
Oui.
Donc vous m'appeliez pour me parler au départ de cet isolement que vivent de plus en plus de gens à cause de cette pandémie. Et puis petit à petit, on a commencé à glisser sur votre maman, qui est un personnage qui m'a l'air un peu haut en couleur, si je puis dire.
Non.
90 ans, vous m'avez dit, c'est ça ?
Oui, elle va avoir 90 ans le 24 décembre.
Alors la pauvre, vous m'avez dit qu'elle a vécu une enfance à la causette avec des parents. C'est même plus de la maltraitance, c'est carrément, c'est pire
non,
que
elle
ça.
A perdu, elle a perdu sa maman, elle avait 5 ans.
Oui.
Bon, dans des conditions totalement dramatiques, mais je ne vais pas entrer dans les détails. Parce que pour moi, je l'ai su très très tard. Donc ça m'a fait beaucoup de mal. Et j'ai appris il y a que 2 ou 3 ans, parce que comme maman, elle commence un petit peu à perdre des pédales, et elle revient beaucoup dans son enfance, et j'ai appris il y a 3-4 ans qu'elle avait été placée en famille d'accueil.
Oui.
Donc à la suite de la mort de sa mère. Et moi, j'ai exercé ce métier pendant 25 ans sans savoir que maman...
Et comme quoi ? Quand on parle de transgénérationnel et de transmission inconsciente.
Oui, voilà, c'est ça. Mmh. Donc moi, j'ai pris ce métier il y a 25 ans et je ne savais même pas qu'on m'aurait été en famille d'accueil. Donc, c'est revenu, mais alors, dans ses souvenirs, mais très très tard, quoi, quand il commençait un petit peu à dérailler, quoi. Donc, elle m'avait dit que sa mère était décédée, voilà. Etc. Et puis qu'elle avait été placée en famille d'accueil, et puis qu'elle ne savait pas comment sa grand-mère était décédée, parce que sa grand-mère était malheureusement... Mais c'est une horreur, je ne vais même pas vous raconter. Donc, voilà. Donc, Et je me demandais pourquoi je voulais toujours... Moi, quand j'ai voulu faire ce métier de famille d'accueil, c'était par rapport à ma fille qui avait eu un cancer des os. Et elle était au CHU de Caen.
À quel âge elle a eu ce cancer ?
16 ans.
Oh là là. Oui.
Donc elle a eu un cancer des os à 16 ans. Et juste à côté d'elle, donc c'était des grandes salles de réanimation. Et juste à côté d'elle, je me souviendrai toujours, il y avait une petite fille qui avait 3 ans et qui pleurait toute la journée, qui appelait maman, 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 tout le temps quand j'allais voir ma fille. Mmh. Et les aides-soignantes m'ont dit, ben oui, mais la maman, elle vient jamais la voir. Elle est totalement... C'est une petite fille qui a abandonné, quoi. Et j'avais toujours dit, si ma fille s'en sort, je ferai ce métier.
Ouais, c'est beau, ça.
Et j'ai fait ce métier. Donc, j'étais famille d'accueil pendant 25 ans.
Eh bien, bravo.
Et puis, après, même, j'avais pris ma retraite et maman me dit qu'elle avait été passée en famille d'accueil parce que, voilà, il y avait... vu que sa belle-mère était partie en prison et que mon grand-père n'était pas revenu puisqu'il était en 46 encore prisonnier en Allemagne. Elle avait tellement subi de choses que sa grand-mère sa belle-mère l'avait tellement martyrisé et son frère, sa belle-mère était emprisonnée. Et maman était... Mais alors, avant de faire ce métier, je ne savais pas que maman m'était en famille d'accueil. Donc, c'est...
Les clins d'œil de la vie, comme ça. Mais vous avez commencé à me dire aussi que petite, vous en avez bavé aussi avec elle.
Maman... Bah, maman est très, très mince. Elle fait 42 kilos. Elle a pris 2 kilos. Là, c'est une horreur, quoi. Parce que là, elle s'alimente plus. Donc, on l'a mis sur nutrition enrichie, quoi. Voilà. Donc, et puis moi, je suis un petit peu ronde. Et puis, mon frère était comme elle voulait. Il était beau. Il était jockey. Donc, il était entraîneur de chevaux. Il était jockey. Donc, voilà. Et puis, moi, j'étais comme mon père, j'étais très, très ronde, quoi. Et puis, elle me dit toujours, ça manque de volonté. Et puis, je crois que malheureusement, je traînerai toujours ce boulet. Hein.
Je crois que ça traduit chez elle un besoin de contrôle, en fait.
Oui, elle contrôle.
Oui.
Oui, elle se contrôle, parce que là, parce que moi, maintenant qu'elle n'a pas... Tout à fait. Bah, elle a encore sa tête, mais pas tout à fait. Donc, c'est moi qui gère le frigidaire, quoi. Donc, j'ai arrêté tous les yaourts qu'elle mangeait et trucs. Et maintenant, on est passé avec les médecins, avec de la nourriture enrichissante, quoi. Des yaourts que je prends, des laitages que je prends à la pharmacie qui puissent...
La nourrir être... vraiment, quoi, oui, bien sûr.
Voilà.
Qu'elle ne se mette pas en danger, en plus, quoi.
Qu'elle se mette pas en danger, oui, parce qu'elle avait des carences, etc. Et puis là, la semaine dernière, le médecin est venu, elle fait 43 kilos, habillée, quoi.
Ouais,
mais pour elle, c'était une horreur, quoi, parce qu'elle avait pris du poids. Bon, je me suis bien rendu compte qu'elle avait pris du poids, parce que ses petites blouses, parce que quand elle faisait du 38, tout, voilà. Mais malheureusement, elle a transmis ça à une de mes filles, quoi.
Ah. Mais aujourd'hui, quand vous allez la voir, cette maman, comment elle se comporte avec vous ?
Disons que... Il y a eu une période où c'était... L'année dernière, à l'automne, c'était très bien. Donc, voilà, quand on a... moi, j'y vais 4 fois par jour, donc je m'occupe...
4 beaucoup. Fois par jour ?
Oui.
Ah, effectivement, oui, c'est plus que de l'aide, ça.
Oui, mais on habite à... Je ne sais pas, 100 mètres l'une de l'autre, quoi. Je ne sais même pas, je ne me rends pas compte, mais oui, 100 mètres l'une de l'autre. Donc, je vais la voir le matin, voir si elle est bien réveillée. Bon, maintenant, on a mis le SIAD en place pour qu'il lui fasse la toilette. Parce que moi, c'est une chose que je ne voulais pas faire. La toilette, moi, j'ai eu mon mari qui a eu un cancer, donc mon médecin traitant m'avait bien expliqué au début, il a fait ça et il a dit que ce n'était pas aux familles de faire ça.
Mais qu'est-ce que vous avez surmonté comme épreuve, Angèle ? C'est assez fou.
Donc, moi, quand mon mari était très, très malade, voilà. Et mon médecin m'a dit que c'était pas... les toilettes, c'est très, très dur pour les gens. Mon mari a eu un cancer, il avait 48 ans. Donc, voilà, il était... Vous voyez, je peux même pas dormir sans bruit. Et ça fait 20 ans qu'il est mort.
Sans quoi, pardon, j'ai pas compris.
Sans bruit.
C'est-à-dire ?
Ben, sans entendre un fond sonore.
Ah oui, parce que vous n'avez... Oui, d'accord, je comprends.
Parce qu'il avait des pompes...
Les machines, tout, oui, tout ça.
Voilà,
tout ça.
Toutes les machines, voilà.
C'est donc, un bruit de fond auquel vous étiez habitué, finalement, comme un, oui, rond, voilà. Comme un ronronnement.
Oui,
comme...
oui, pendant 3 ans. Alors, avant, oui. C'était la lumière. Bon, maintenant, je peux dormir sans lumière, mais je ne peux pas dormir sans bruit. Sans la radio, c'est comme ça que je vous entends tous les soirs, je ne peux pas dormir sans radio.
Oui, je comprends.
Donc, voilà, c'est pas possible. Donc, et comment. Donc, voilà, et maman, elle est hyper. Elle peut être très, très agressive. Bon, elle a des périodes d'agressivité, mais voilà. Et puis là, elle a fait une. Ben, c'est-à-dire que en début d'année, au mois de janvier, moi, j'ai été hospitalisée pour une grosse opération. Et j'avais personne pour m'en occuper. Et 2-3 jours avant, elle a fait une chute. Donc, elle était hospitalisée. Et ils nous l'ont rendu, bah, ils l'ont sûrement shooté. Bon, après, je ne gère pas les médicaux, etc. Mais elle m'en a beaucoup, beaucoup voulu. Et moi, j'étais un mois à pas du tout pouvoir descendre la voie.
Comme si c'était de votre faute.
Oui, c'est ça.
Mais vous savez, Angèle, vous me dites que vous vous occupez d'elle 4 fois par jour. Mais à quel moment vous vous occupez de vous ?
Ben je gère ma vie sur la vie de maman.
Mais oui, mais c'est ça.
Donc, si ben, moi maintenant, parce que là, son état se dégrade, donc si vraiment j'ai une journée, parce que j'ai quelques amis, donc surtout une très très bonne amie sur Granville, donc si j'ai les infirmières le matin pour lui faire la toilette, et puis les aides-ménagères pour lui faire le repas le midi, je pars vers 11h, je vais manger avec mon ami à Granville et je m'arrange pour rentrer à 5h pour lui faire ce repas du soir.
Mais vous êtes bien gentille quand même, hein, parce que c'est essentiel d'avoir des moments pour vous. Vous ne tiendrez pas sinon.
Non, je me rends bien compte et puis je me rends bien compte que mon état de santé se dégrade.
Bah, évidemment.
Quoi.
Toute votre énergie, vous lui donnez à elle.
Oui. Et sans rien recevoir, parce que vous voyez. Ce soir, d'habitude, elle a ses habitudes. Donc, je descends la voir vers 16h. 16h, et 16h, vu qu'elle est devenue plus agressive, donc 16h, je monte à 17h. Donc, je lui prépare son repas du soir parce qu'elle se couche à 5h30, donc à 17h30, quoi. Donc, et ce soir, mon petit-fils est venu avec sa petite amie. Il est arrivé à 16h et ils sont repartis plus tard et elle m'a reçu. Très agressive.
Oui. Vous me disiez qu'en plus, elle perd un peu la tête maintenant.
Oui, oui, oui. Elle perd un peu, oui, elle perd un peu les pédales, mais elle perd, oui, elle perd la tête, mais pas surtout, quoi.
C'est-à-dire, vous pensez, quand ça l'arrange, non ?
Oui, voilà, c'est ça. Ah,
c'est de la manipulation, plutôt, alors, ça.
Oui, je crois, oui.
Il faut vraiment que vous vous protégiez, Angèle. Je comprends, c'est extrêmement généreux de votre part de vous occuper autant d'elle, mais vous allez craquer, vous, hein.
Oui, je sais.
Il y a un
oui.
moment donné, la bascule va pas se taire. Hein. L'équilibre va se déséquilibrer.
Oui, parce que bah, vous voyez, il y a 2 ans, bon, je devais partir au carnaval de Nice, il est annulé. Donc cette année, je suis partie une semaine chez ma fille à Antibes avec ma petite fille. Et au mois de mai, elle me l'a fait payer, mais alors.
Ah, bah, d'accord. Elle vous a pourri la vie après.
Ouais. Ah oui, pendant 3 mois.
Ouais,
bon, alors que j'avais ma fille et puis mes fils qui ont pris le relais, mais bon, après c'est ses petits-enfants, ils la coucounent pas comme moi, quoi.
Mais enfin, ça vire à l'esclavagisme là quand même, hein, ce que j'entends.
Oui.
Et oui.
Oui, mais voilà, alors, et puis, là j'imagine que, parce que le carnaval de Nice, ça fait 3 fois que je dois le faire. J'imagine qu'encore cette année, il va être annulé. Voilà.
Ben, j'ose pas vous rassurer là-dessus parce que je n'en sais rien, mais effectivement, vous mettez prudent en ce moment.
Oui, j'imagine qu'il va être annulé.
Pour l'instant, on est mal parti, c'est vrai.
Oui, voilà, c'est ça. Donc, je devais partir en Bulgarie. Elle nous a fait une comédie. Et puis bon, au dernier moment, le voyage a été annulé. Donc voilà. J'ai pris ma retraite il y a 2 ans, juste au moment du Covid, donc je ne fais plus rien, quoi. Et puis, les seules choses qui me font plaisir, je ne peux plus les faire, et puis voilà. Et je suis totalement dépendante d'elle, donc si je... Bah oui, si je... si je pars quelque part avec mes amis, je gère sur les jours où elle a les aides ménagères ou les infirmières, et puis voilà.
C'est intéressant la manière dont vous dites ça. Vous me dites « je suis dépendante d'elle », c'est elle qui est dépendante de vous. C'est pas l'inverse ?
Non, parce que...
Ou alors c'est un lapsus révélateur ?
Non, c'est... Oui, c'est... Non, parce que elle... Non, je suis redevable.
Vous croyez l'être, en tout cas vous avez accepté de l'être.
Oui, sûrement.
C'est là que j'aimerais vous poser cette question. Pourquoi est-ce que vous vous sentez obligée de faire tout ça?
Parce que c'est maman, parce que c'est ma mère. Moi, je n'ai jamais... je suis née en 55, je n'ai jamais répondu à ma mère. J'ai pris des claques, des trucs. Je ne lui ai jamais répondu. Je suis totalement polie avec elle. Elle peut...
Mais justement, parce que c'est votre mère, elle devrait être gentille avec vous. C'est l'inverse.
Oui, mais alors moi, je me dis que comme elle n'a pas une mère, on ne lui a pas appris.
Oui, comme enfin, vous non plus, d'après ce que j'ai compris, vous n'avez pas eu une vraie mère. Une mère aimante.
Oui.
Et alors, donc vous avez appris quand même, vous. Vous avez des frères et sœurs, Angèle?
Oui, j'avais un frère, mais il est mort... Il avait 42 ans, donc la même année, j'ai perdu mon mari et mon frère.
Je me demandais si quelqu'un d'autre pouvait s'occuper d'elle un petit peu de temps en temps.
Non,
pas que vous.
Malheureusement. Mmh. Mon mari est mort et mon frère... Franchement, je vous dirais que quand mon frère et mon mari sont décédés, ils étaient tous les deux, mon frère en réanimation au CHU de Caen et mon mari à Bacless, à Caen. Donc, quand on m'a appelé la nuit, je ne savais pas lequel était décédé.
Oui.
Donc, mon frère avait 42 ans, mon mari avait 48 ans.
Et vous êtes sacrément solide hein, pour être toujours debout.
Oui, parce que j'avais un fils qui avait 17 ans. Donc, il fallait bien que... J'avais un fils qui avait 17 ans. Et puis, voilà. Il a bien fallu que je finisse de l'éduquer. Et puis, mon travail m'a tenue. Moi, je dis toujours que c'est mon travail qui m'a tenue. Parce que famille d'accueil, les petits que je venais d'avoir, quand mon mari est décédé, ils avaient 2 et 4 ans avec une maladie génétique. Donc voilà, et je me dis combien de fois, leur maladie était très très lourde à gérer pour moi, mais pour moi, combien ça a été salvateur. Quoi.
Oui, bien sûr, je comprends.
Parce que tous les matins, vous donnez un coup de pied aux fesses parce qu'il faut aller les mettre à l'école.
Parce qu'ils ont besoin de vous, évidemment.
Et
oui.
Voilà. Et vous pleurez toute seule, mais le matin, vous vous levez, les emmenez à l'école. Vous allez. Bon, il y en a un qui n'allait pas à l'école parce qu'il était beaucoup trop gravement malade. Donc, il faut assurer les rendez-vous dans tous les hôpitaux, etc. Donc, voilà. Et puis, ben moi, j'ai arrêté en 2019. Parce que bah, je voulais les emmener... Moi, j'avais ma retraite à 62 ans, mais j'ai été jusqu'à 64 ans et demi parce que je voulais finir mon travail correctement.
Avec eux?
Oui, voilà. Mmh. Donc, voilà. Et puis, ils sont partis. Bon, pas forcément dans des bonnes conditions, mais bon, après, ils reviennent de temps en temps. Voilà, ils oublient. Mais... Oui, voilà. Et puis maintenant, ben, je me sens un petit peu seule parce que mes enfants, ben, c'est normal, ils n'ont pas du tout envie de prendre la grand-mère. Maman, oui, bien sûr, mais s'occuper des problèmes de la grand-mère, voilà.
Mais il arrive un moment où ça va être compliqué. Est-ce que vous avez commencé à penser à la suite?
Oui, parce que là, je sais que je suis malade.
Il y a vous et puis il y a elle, si elle perd la boule et qu'elle devient dangereuse pour elle-même?
Oui, ben oui. Oui, pour elle-même, oui. Mais moi, le problème, c'est que je suis malade maintenant.
Donc vous n'allez plus pouvoir autant vous occuper d'elle?
Voilà. Oui, j'ai sûrement un cancer du côlon, donc... Donc, qui me fait énormément souffrir, qui me diminue beaucoup, beaucoup. Et puis, bah, y a toute c'est pas une propriété. Hein. On n'est pas des grandes propriétés, mais maman, elle a sa grande longère, elle a tous les bâtiments en bas, il faut désherber, il y a les grands parcs.
Non, mais là, c'est plus gérable pour vous, Angèle. Surtout maintenant, votre corps vous dit stop, là, vous avez compris. Hein.
Oui, voilà, ça y est, je sais, j'ai compris, mais oui. Voilà, mais là, ça s'aggrave, voilà, donc les retours des analyses sont très mauvaises, donc je sais que, voilà, et puis, oui, ma hantise, ça va être de mourir avant le moment.
Oui, vous êtes encore en train de penser à elle avant de penser à vous.
Oui, je sais bien.
D'abord, avant de mourir, vous allez vous battre, parce qu'on s'en sort aussi des cancers, hein.
Oui, mais... Oui, bah après, je sais pas. Je sais pas, bah après, moi, je veux pas de chimiothérapie comme mon mari et mon frère. Ça, je suis totalement con. Non, après, chacun fait... C'est comme les vaccins. Chacun fait comme il veut. Voilà, ma fille veut pas se faire vacciner. Je lui dis rien. Moi, je ne veux pas de chimiothérapie. Surtout pas. Je veux bien des opérations, des rayons, mais pas de chimiothérapie, parce que ça a été tellement une horreur pour mon frère et mon mari. Donc, mais je vois bien que mon état de santé se dégrade. Alors après, est-ce que je souhaite surtout que c'est que maman soit partie avant moi, quoi, parce que je vois pas qui va s'occuper d'elle après.
Mais il va falloir que vous pensiez à la placer maintenant. J'ai l'impression que c'est plus une option, de ce que j'entends là.
Ah non, elle veut pas.
Bah elle veut pas. En même temps, si vous ne pouvez plus vous occuper d'elle, il se passe quoi?
Ben, je vais mettre plus de prise en charge à des mères. Ben, le matin, je peux plus. Donc, les infirmières lui font sa toilette et puis voilà. Et puis, pour l'instant, elle a trois heures d'ADMR. Mais ça devient compliqué. Donc, ben, je lui descends ses repas. Et puis, le linge devient... Bon, son état se dégrade. Donc,
mais le vôtre aussi, Angèle. Est-ce qu'elle sait que vous êtes malade?
Oui, mais elle ne le voit pas comme ça, quoi.
Oui, parce que ça... Oui, enfin bon, c'est quand même très égoïste, hein.
Oui, voilà, c'est elle le principal, quoi.
Ben non, mais ça, arrêtez de vous laisser faire. C'est pas elle le principal. Et de toute façon, si vous vous écroulez, il n'y aura plus personne pour elle.
Ah oui, parce que pas... Oui, mes enfants, elle n'a pas toujours été très gentille. Et puis, mon frère avait un fils qui ne s'est jamais occupé d'elle, quoi. Donc... ça va être compliqué, quoi.
Il va être urgent pour vous, Angèle, de pratiquer l'égoïsme sain.
Oui. Vous voyez, je m'étais fait une liste de choses que je voulais faire. Donc, je voulais faire... Après, c'est compliqué, parce que quand on ne connaît pas Paris, c'est tellement difficile. Donc, moi, je voulais visiter le Louvre tellement... voilà, j'étais à Venise, j'ai fait plein de musées à Venise. Je suis allée passer une semaine avec mes filles à Venise. On a fait les toutes petites... on n'a pas fait le Venise que font les touristes en deux jours, quoi. On a fait toutes les églises, les musées, etc., quoi. Mmh. Et puis, voilà, moi, je voulais faire le Louvre, parce que moi, j'aime beaucoup le Louvre. Donc, j'aurais voulu trouver un guide qui m'emmène au Louvre, quelqu'un qui me prenne en charge, parce qu'en Normandie, on n'a rien. Donc, moi, je connais rien à Paris. Je ne veux pas aller dans le métro, parce que je suis claustrophobe. Donc, voilà.
Eh bien, Angèle, si vous le permettez, je vais lancer un appel ce soir sur la Libre Antenne. Pourquoi pas? Ça sert aussi à ça, la solidarité. Si on a une femme parisienne... qui souhaiterait vous accueillir peut-être pour deux jours ou trois jours et vous faire visiter Paris, vous amener au Louvre et vous échanger avec vous.
Oui.
Ça vous plairait?
Ah oui, ça me plairait, oui.
Bah écoutez, c'est pas compliqué. Si parmi ceux qui nous écoutent, vous avez envie d'accueillir une femme qui a l'air absolument adorable, qui a le cœur sur la main, qui s'appelle Angèle, qui habite en Normandie et qui rêverait de passer deux ou trois jours à Paris et de visiter le Louvre notamment, et bien surtout, laissez-nous des messages. Alors je vous rappelle... Par SMS, c'est 739-21, suivi du mot nuit et de votre message avec votre numéro de téléphone. Et le plus simple, c'est carrément par mail. Vous mettez libreantenne attaché, libreantenne@europe1.fr et on transmettra à Angèle votre numéro de téléphone.
Pas la Tour Eiffel, surtout pas. Je veux pas voir la Tour Eiffel, je trouve ça super moche.
Attendez, je parle de numéro de téléphone, pas de Tour Eiffel?
Non, non, mais je ne veux pas aller voir la Tour Eiffel, je veux aller voir le Louvre, passer trois jours au Louvre, je ne sais pas, les musées...
Vous irez voir ce que vous voulez, Angèle, ce n'est pas grave.
Je ne sais plus comment il s'appelait, le château...
De Versailles, peut-être.
Non, Versailles, je l'ai fait, donc je ne sais plus comment il s'appelait, j'ai un trou, bon, c'est pas grave. Je retrouverai un château dans le nord de Paris, je sais plus, mais ah non, pas Paris central, mais le Louvre, les musées, voilà.
Ah bah je vais pas vous décevoir, mais le Louvre et les musées, c'est dans le centre de Paris, hein.
Oui, voilà. Oui, le Louvre, le musée Édouard Montand, parce que j'ai été visiter des jardins, dans l'heure.
Bon, Angèle, on n'en est pas encore là, mais pour l'instant, j'ai lancé un appel.
Si quelqu'un... Oui, je veux bien.
Hein, si quelqu'un a la gentillesse pour les fêtes, par exemple, de vous accueillir et de s'occuper de vous pendant 2-3 jours...
Non, ça serait... pas forcément qu'il m'accueille. Moi, je prends une chambre d'hôtel et quelqu'un qui me guide.
Voilà, d'accord.
Voilà, juste un guide ou une jeune femme qui est étudiante et qui veut bien me faire visiter ce que j'ai envie de voir à Paris. Moi, c'est pas le problème, l'hôtel, je prends l'avion et puis voilà, je prends un hôtel et puis quelqu'un qui me guide dans Paris parce que je suis claustrophobe, donc je vais pas aller dans le métro, ça me...
Alors, une étudiante, pourquoi pas, mais pourquoi pas une dame de votre âge aussi?
Oui, peut-être, après tout.
Hein, ça pourrait faire une copine en plus.
Oui.
Bon, écoutez, l'appel est lancé, Angèle, ce que j'espère vraiment, c'est que si ça fonctionne bien, vous me rappellerez pour me raconter.
Ah oui, je vous raconte, et puis j'espère... Oui, ce serait vraiment pour moi un break super parce que je n'ai jamais pu visiter le Louvre et ça, voilà.
Ce serait ce qu'on appelle un conte de Noël et je serais ravie de le partager sur l'antenne d'Europe 1.
Ah, je vous remercie beaucoup.
Je compte sur la solidarité de tous ceux qui nous écoutent et je suis persuadée que quelqu'un va vous tendre la main à Paris. Vous allez voir.
Merci. Au revoir.
Je vous embrasse, Angèle. Au revoir.
Au revoir.
Sabine Marin est à votre écoute sur Europe 1.
Et c'est René que j'accueille maintenant sur notre libre antenne. Bonsoir René.
Bonsoir Sabine. Ouais.
Bienvenue à vous René.
Oui, alors donc je vous appelle, j'ai rebondi un peu sur la question de la dame qui avait eu le problème des chariots, là. Vous savez, il y a quelque temps que vous aviez passé.
Alors attendez, je vais éclaircir ça, c'était Nabella la semaine dernière.
Voilà.
Et ce que vous appelez chariot, c'était son fauteuil roulant électrique.
Voilà, c'est ça.
Et Nabella nous avait appelé pour nous dire que c'était délirant, mais qu'elle était dans un appartement qui a été refait aux normes handicapées,
voilà,
mais aux normes
tout
handicapées d'un fauteuil pas électrique.
Oui, j'ai compris.
C'était complètement... C'est une histoire de fou.
Alors
ça.
Mon frère, lui, il a eu le même problème, mais alors bien plus gros que ça, puisqu'il était tétraplégique.
Oui.
Et donc, il a voulu, en taillant sa haie, il était sur son escabeau, bien sûr, il n'était pas haut du tout, et il a basculé la tête en avant et il s'est fracturé le cervical.
Mon Dieu, il avait quel âge?
Et il a 75 ans.
Mais quand c'est... Non, mais quand c'est arrivé?
Il y a 2 ans, il avait 75 ans, il a 77.
Ah, donc ouais. C'est récent, je crois que c'était un accident très ancien.
C'est récent, non. Alors donc, c'est pas récent, ça fait 2 ans déjà.
Hein, oui, enfin, je veux dire, relativement récent. Ouais.
Voilà. Et donc là, il a fallu tout équiper la maison, bien sûr. C'était une maison avec un étage, donc il a fallu mettre l'ascenseur et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Et il avait une maison secondaire, une maison de campagne, et donc il a été obligé de vendre sa maison de campagne pour s'équiper, puisqu'il a eu droit à peu de choses, peu, très peu.
Ouais, c'est ça, on parlait des frais de fauteuil avec Nabella, qui nous disait que c'était 8 000 euros un fauteuil électrique.
Oui, c'est ça. Et lui, il devait tourner dans les 22 000 euros, tiens.
Comment est-ce qu'il fait pour se déplacer, lui?
Eh bien, il a son épouse, heureusement, qui est toujours avec lui, son infirmière, et qui est formidable, parce qu'elle tient le coup quand même, je ne sais pas comment qu'elle peut faire. Elle a des aides quand même, elle a des assistantes de vie qui viennent. Mmh. Et puis, il faut passer des nuits, alors elle a toujours quelqu'un la nuit. En plus, il y a les problèmes de la respiration qu'il faut contrôler, tout ça.
Oui, c'est vrai que, voilà, c'est très lourd, ça.
C'est pour ça que je dis qu'il y a des choses qui ne sont pas normales non plus. Là, il est obligé de s'acheter une voiture équipée, bien sûr, spéciale, qui coûte très cher. Et on peut juste rentrer le fauteuil dedans, plat, parce qu'il reste dans son lit, on arrive à le mettre dans le fauteuil, mais il faut le lève personne et tout, et tout, et tout. Je crois qu'on ne peut pas faire pire au point de vue en tétraplégique.
Au point de vue dépendance. Mais là, la différence, c'est que la maison a été adaptée à son handicap après.
Après, voilà.
Alors que Nabella, d'après ce que j'ai bien compris quand elle nous a raconté son histoire, elle s'est installée dans un appartement dont les normes avaient été construites avant.
Oui, c'est ça.
Pour des fauteuils classiques, mais pas pour des fauteuils électriques.
Il y avait encore des marches d'escalier, encore en plus. Hein.
Oui, c'était vrai.
Elle vous a expliqué, hein. Il me semble qu'elle vous a expliqué. Hein.
Oui, mais votre frère, s'il n'avait pas eu un bien à vendre et donc un peu d'argent accessible, comment il aurait fait?
Il serait trouvé dans une EHPAD. Je ne vois pas autrement. Hein. Mmh. C'est pas bien possible autrement. Hein. Et donc, pour eux, ils avaient quelques bonnes années à passer ensemble, parce qu'ils avaient fait une maison de campagne, qu'ils avaient d'ailleurs pas très longtemps, qu'ils habitaient constamment.
Mais ça, par définition, un accident, après, on prévoit jamais.
Pour aller en ville, c'est compliqué que la vie, c'est très... Il y a des aléas qu'on ne peut pas prévoir. Hein, c'est...
Ah, la vie est fragile, on le sait. Hein.
Très fragile. Et puis alors, il lui avait dit que ça reprendrait, qu'il aurait de l'amélioration au bout d'un an, ainsi de suite. Il y croyait aussi un peu. Il en a eu légèrement, mais pas suffisamment. Je pense qu'il a été trop touché, parce qu'il y a des gens qui s'en ramènent, ils ramènent pas mal. Hein.
On lui avait laissé l'espoir que peut-être il allait remarcher ?
Ouais, non,
pas remarcher.
Mais qu'il reprendrait un peu de... au niveau des mains, surtout. Mais, là, il ne peut pas se servir de ses mains, il ne peut pas.
Ouais. Et comment est-ce qu'il va moralement ?
Moralement, mais il a un très bon moral, sa femme est là, à côté, pour l'aider et tout. Hein. Mais il parle comme moi je parle, hein, pareil. On a la même conversation.
D'accord.
C'est unique, ça. Alors, donc, il a un chariot qui a une boule dessus et qui pousse en avant pour avancer.
Alors, si je traduis,
il a que le menton qui bouge un tout petit peu.
Ce que vous appelez un chariot avec une boule dessus, c'est un fauteuil roulant avec un joystick.
Voilà, c'est ça.
Oui.
Alors, il peut s'orienter sur la gauche, sur la droite. C'est très compliqué.
Mais il peut le faire seul, ça ?
Comment ?
Il peut le faire seul ?
Eh bien, il y a pas toujours. Il faut encore que son épouse soit derrière pour le problème. Toujours le conduire et tout. Hein.
Et j'imagine qu'il a des soins à domicile tous les jours aussi.
Oui, bien sûr.
C'est pas son épouse qui s'en occupe.
Alors maintenant, il y a des escarres, bien sûr, qui se mettent dans l'eau. Là,
oui, bien sûr. Bien. On oublie toujours, quand les gens sont sur le fauteuil, toutes les douleurs secondaires que ça engendre. Hein. Tous les problèmes secondaires ou handicaps que ça engendre.
On ne peut pas figurer, bien sûr.
Quand on ne le vit pas, on n'imagine pas tout ça.
Alors je dis, il ne peut pas faire pire. Hein. Je crois que... Il n'y a pas pire solution, c'était qu'il tombe tout de suite et qu'il soit mort, mais comme ça, il a gardé la tête, quoi, en fait, quoi, et ça ne reviendra plus, mais non, c'est fini. Il y a 2 ans, je ne pense pas que ça revienne.
Il a quand même de la rééducation régulièrement ?
Eh bien, il a du kiné, oui, un peu, oui.
Mais vous me dites que malgré tout, il garde le moral.
Il garde le moral. Et là, je trouve que c'est aussi... Normalement, il aurait dû avoir possibilité de prendre les ambulances pour emmener, parce qu'il est à 15 km de Saint-Étienne. Là, et donc, quand il veut faire des trucs à l'hôpital, il faut prendre sa voiture, bien sûr, et il faut qu'ils aient été obligés d'acheter une voiture.
Et juste pour info, combien ça coûte une voiture comme ça ?
Ça doit faire, dans les... Ils l'ont payé encore d'occasion, mais au moins 30 000 euros.
Ah, vous vous rendez compte ? C'est, ouais.
Il en avait une première, il n'a pas pu la supporter parce qu'elle n'était pas à suspension à air, celle-ci qu'il achetait. Elle est amortisseur à suspension à air. Donc elle est beaucoup plus souple. Il a moins mal, elle est intransportable. On va la voir là pour Noël, on est à 10 km de chez lui. Il va venir quand même, ils vont l'emmener, comme ça ma belle-sœur va l'emmener, puis c'est ma belle-sœur, et qui est son épouse. Et donc.
Vous êtes très proche de votre frère.
Eh ben oui, et puis alors c'était le dernier en plus. Moi j'ai 84 ans, alors oui, je ne suis pas tout jeune.
Et j'ai
7 ans de plus.
Pourtant vous avez une voix beaucoup plus jeune. J'aurais pas dit plus de 70, vous voyez.
Oui, mais c'est vrai. Vous n'êtes pas la première qui me le dit, c'est vrai, tout à fait. Oui.
Alors comme vous parlez beaucoup avec votre frère, est-ce qu'il vous dit pour lui ce qui est le plus difficile à vivre au quotidien ?
Oh oui, on se craint pas, mais il me dit qu'il est bien soigné, il a tout ce qu'il faut, là, son épouse. Il n'est pas demandeur, vous voyez, c'est le gars qui est très, très raisonnable.
Et très raisonnable. Quelle force de caractère, dites-moi.
Ah, une force terrible de caractère. Ouais. D'ailleurs, c'est ce qu'il tient, parce que je vous dis, ça fait 2 ans. Je chahute avec lui des fois. L'autre jour, c'est venu à parler, il avait des pantoufles toutes neuves. Ben, je lui dis, mais tes pantoufles, toi, tu ne vas pas les user, il faudra que tu me les donnes. On aime bien chahuter, oui.
Est-ce que ça a changé ses rapports avec d'autres membres de la famille ?
Il a bien l'humour et il a beaucoup d'humour aussi.
Ah ben ça aide beaucoup à tenir dans des situations dramatiques.
Oh là là, c'est pas croyable, on voit les gens.
Et oui, je vous demandais, est-ce que ça a changé ses relations avec des gens dans la famille ou ses amis, par exemple ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont pris peur, qui ont tourné le dos, ou à l'inverse, qui se sont rapprochés ?
Il a beaucoup d'amis parce qu'il était diacre.
Ah.
de son métier. D'accord. C'est ce que c'est un diacre. Hein, un diacre permanent, il était. Donc, il a énormément de connaissances.
C'est bien qu'il s'est entouré, en tout cas.
Qu'il s'approche de lui, tout ça, qu'ils vont le voir et tout.
Les gens ne l'ont pas laissé tomber après l'accident ?
Non, non, pas du tout. Ah. Oui. Puis je pense qu'on est dans une région où les gens se contactent bien, même qu'il y a le Covid et tout, ils ont gardé des bons rapports, les gens, quand même. À condition d'avoir les trucs barrières, on est bien d'accord. Hein. Oui. Mais j'ai l'impression que dans l'ensemble, on est dans un coin bien tranquille pour ça, à ce niveau-là. Hein.
Alors lui, il a gardé le moral, il a encore la pêche, mais vous, j'ai l'impression que c'est un peu difficile quand même, que vous avez du mal à accepter ce qui s'est passé.
Eh bien oui, on se dit c'est pas possible ce qui lui est arrivé, c'est horrible quoi. Moi, ça aurait été plus normal, j'aurais 7 ans plus que lui, à la limite.
Ah, là, on va recommencer avec la normalité, il n'y a pas de normalité dans la vie.
Il n'y a pas de normalité, c'est ça.
Si la vie était normale, ça se saurait, me semble-t-il, René.
Vous disiez à la dame là tout à l'heure, c'était bien ce que vous lui disiez, c'était vrai, il faut savoir... savoir en prendre sur soi, en donner, mais il faut quand même en garder pour soi.
Ah bah c'est la règle numéro un.
Je crois, parce que sinon, on va où là, hein? On va en plein dans le mur, tout de suite. Et puis, je ne sais pas si ça rapporte plus ou si à la personne.
Non, absolument pas.
Il faut savoir arrêter.
Vous êtes combien dans cette fratrie?
On était 6 de famille, oui. Alors, c'était encore les anciennes familles, ça qui avaient beaucoup d'enfants, hein, c'est les années 30, ça, hein. Mm-hmm. Moi, je suis né en 1937, mon frère est né en 1944, c'était le dernier.
Et aujourd'hui, il reste combien d'enfants?
Eh bien, j'ai une sœur qui a 2 ans de plus que moi, qui a 86 ans,
ouais.
Et puis Louis, qui s'appelle Samy. On est 3 encore.
Vous êtes 3. Mais on sent vraiment qu'il y a un joli lien entre votre frère et vous. Hein. Je sens beaucoup d'amour et beaucoup d'attention envers lui.
Ben, on fait ce qu'on peut. Puis
et lui envers vous.
Il le mérite parce qu'il a été toujours bien avec nous aussi. C'est réciproque, comme on dit. C'est très réciproque.
Oui, et puis il y a sa femme qui est quand même là aussi. Là aussi, il y a beaucoup d'amour. Oui.
Et en plus, elle était infirmière, elle. Donc, ce qui fait
qu'elle
connaît
sait.
Beaucoup de choses. Quoi.
Elle sait, donc forcément.
Elle sait, elle
en
sait.
En plus, oui.
Elle a un mérite terrible, c'est vrai, il faut le dire. Hein. Et ils se sont mariés tard. Son mari, c'était... Oui, ils avaient 50 ans tous les deux. Oui.
Ah, c'était une deuxième partie de vie, alors?
Oui.
Ouais.
Bah, écoutez... Oui, parce que vous savez, les diacres, ils n'étaient pas diacres à ce moment-là. Et ils ont le droit de se marier avant, ils n'ont plus le droit de changer de situation après. Ou pas marié, si vous êtes célibataire, vous restez célibataire.
Bah alors comment ouais, il a fait, puisqu'il était diacre.
Vous avez fait votre diaconat, vous étiez nommé, c'est fini. Alors, il s'était marié avant.
Ah, avant?
Oui, parce que c'est ce qu'on appelle des diacres permanents. Vous avez le diacre qui vient prêtre après, par la suite. Mais là, c'est le diacre permanent.
D'accord, je ne savais pas que les diacres pouvaient se marier avant, mais pas pendant.
Mais oui. Vous voyez que... Mais non, je ne sais pas dernièrement si ça a changé, mais enfin, on remonte quand même à une vingtaine d'années. Hein.
En tout cas, vous voyez, René, c'est une histoire à la fois triste et pleine de lumière, de beauté. Parce
oui,
qu'il y a de la solidarité, il y a de l'amour, il y a de l'humour aussi, vous me disiez.
Alors on a
tout ça sont des valeurs importantes.
Tous les petits-enfants et maintenant les arrière-petits-enfants, il les a mariés, il les a... Ils ont été baptisés par lui, c'est tout un programme, comme on peut dire. Mmh. Alors, tout le monde lui redoit, quoi, c'est vrai.
Est-ce que vous avez pensé à écrire cette histoire pour qu'il y ait des traces pour les générations à venir?
Non.
C'est dommage, parce que c'est une belle histoire, je trouve.
Il y aurait beaucoup à faire.
Et oui.
Ah oui.
Ce serait un joli témoignage à laisser pour les suivants.
Bien sûr, bien sûr.
Ouais.
Vous avez bien raison. Voilà, là, je voulais vous en faire part. Quoi. C'est ce qui m'a branché, c'est un petit peu ce chariot l'autre jour. Quand on a parlé de ce chariot, là, 8000 euros, là, j'ai dit, mais il est pas trop cher, vous disiez, mais c'est cher pour un chariot. C'est vrai, c'est cher. Il faut croire que là, ils en profitent. Quoi. C'est pas possible autrement. Quoi.
Ah bon, au fur et à mesure de son témoignage, les bras m'en tombaient hein, dans ce qu'elle me racontait.
Ah oui.
Vraiment, comment est-ce qu'on peut aller sur la Lune et pas capable de gérer ça mieux que ça?
Ah oui, c'est bien dit. bien c'est, dit.
C'est fou.
C'est tout à fait.
Malheureusement, ça ne changera pas les choses qu'on le dise, mais bon.
Mais non, mais c'est vrai qu'il y a tellement de belles émissions qui se passent là, que vous passez. Mais vous avez bien du mérite aussi pour suivre tout ça. Ce n'est pas évident hein, pour vous aussi non plus. Hein. C'est un métier qui est vraiment...
C'est gentil, René.
Ah oui, vraiment. D'ailleurs, ça fait des années que je vous écoute, moi aussi, à la libre antenne. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui, quand même, qui le prennent, qui laissent la télévision aujourd'hui pour écouter le soir leur libre antenne.
Bah, tant mieux, j'en suis ravie. Je suis ravie d'avoir discuté avec vous, René. Merci beaucoup de votre appel.
Voilà, ben, moi aussi, je vous remercie.
Et je me permets de vous embrasser.
Et puis moi aussi, pareillement. Hein. Merci.
Merci à vous, René. Au revoir.
Sabine Marin est à votre écoute sur Europe 1.
Et c'est Louise que j'accueille maintenant. Bonsoir Louise.
Bonsoir Sabine.
Qu'est-ce que j'aime ce prénom, Louise.
C'est vrai?
Ah oui, vraiment. Si j'avais une petite fille, je crois que je l'aurais appelée Louise.
C'est joli, hein?
C'est très joli.
Ouais, c'est très joli.
Qu'est-ce qui vous amène, Louise, gentil. Alors?
Alors, moi, mon appel, eh ben, concerne, comme la dame qui a eu tout à l'heure, j'ai dit mince, elle m'a doublé. C'est à cause de la Covid. Mm-hmm. Donc, ça fait 2-3 ans que je suis en retraite. Je ne sais même plus tellement c'est long, parce que ça a commencé à peu près en même temps. Donc, je voyageais beaucoup, tous les ans, un voyage par an. Et tout a été coupé net. Et depuis, je ne sors plus. Hein. Je me suis enfermée. Quand je dis enfermée, c'est enfermée. Hein.
Et oui, c'est vrai que toutes les deux, vous mettez le doigt sur quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé. C'est les gens qui se sont partis en retraite au moment où ça a commencé.
Ouais, et on voit plus personne déjà qu'on coupe tout le lien avec le travail, avec les collègues.
Alors ça pourrait être un nouvel élan la retraite, mais là l'élan il a été coupé quoi.
Il a été coupé. Je m'étais inscrite à un club. Mm. Le club a été arrêté tout de suite au début de la pandémie. J'ai perdu toutes mes amies. Je ne sors plus. J'ai plus envie de rencontrer personne. J'habite un petit village où je suis obligée de me déplacer en voiture pour aller ne prendre qu'une baguette. J'ai du mal à y aller, je vous assure.
Non mais je comprends beaucoup de gens, en fait. C'est plus moral, psychologique que physique, ce problème.
Oui, c'est moral. Donc je me suis fait prescrire des anxiolytiques pour essayer de passer des endormisseurs aussi, du Zopiclone, là. J'en ai pris deux. Vous voyez, je parle encore très bien. Je ne suis pas encore la bouche pâteuse.
Oui, je vous remercie de ne pas l'avoir pris trop tôt parce que ça m'est arrivé un soir. J'avais une femme qui m'appelle et qui me dit « Allô, Sabine ?» Et au bout d'un moment, je lui dis « Excusez-moi, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez pris quelque chose ?» Elle me dit « Oui, un somnifère. »
J'en ai pris deux déjà.
Mais là, vous parlez encore correctement, donc on peut échanger.
Ouais, ça va. J'étais en train de... Je vous attendais, donc j'écoutais la radio en même temps. Moi, je lisais en même temps, j'écoutais, je lisais. Donc, je passe mes journées. Mais quand je vous dis enfermé, c'est enfermé. Il y a des fois, je ne passe même pas le pas de la porte.
Mais oui, parce que c'est un peu un cercle vicieux. Plus on s'enferme, plus on a peur de sortir, moins on a envie.
Je crois.
Et tellement de gens me disent ça. Même les jeunes, en ce moment, me disent ça.
Ouais, c'est fou. Ouais.
J'avais l'impression pourtant qu'à partir du moment où on a pu sortir, ils allaient tous s'en profiter un peu comme des lapins, aller courir dans tous les sens. Et en fait, non, ouais. Il y a une espèce de prison psychologique qui est restée.
Voilà. Et j'ai eu mes enfants, une de mes filles m'a payé un séjour chez elle parce qu'elle habite la région parisienne.
Mmh. Et vous êtes où?
Dernièrement. Vous ne pouvez pas vous imaginer le bien que ça m'a fait, mais c'était super. Il a fait un très beau temps à ce moment-là sur Paris. On a super bien profité. Puis quand je suis revenue, ça y est, c'est retombé dans les...
Oui. Où êtes-vous, voilà. Où êtes-vous, Louise?
À Nantes, à côté de Nantes.
Donc c'est pas trop loin quand même de Paris?
Non, ça va, j'ai pris le train.
Ça fait quoi, 2h30, 3h?
3h30.
3h30, oui. Ouais. Bon, c'est faisable quand même.
Elle m'avait fait après une belle surprise. Le samedi, on était allé voir un autre de mes fils qui est à... Orléans, donc elle habite à Meaux, et de Meaux à Orléans, ça fait 2h30 de route, je ne savais pas, c'était la surprise, c'était super gentil, mais j'ai des enfants super, mais sitôt arrivée à la maison le dimanche soir, c'était reparti parce que j'ai pas pris d'anxiolytique là-bas à Paris, hein. J'en avais pas besoin en fait.
Ah bah oui, donc c'est forcément, et oui.
Et puis j'ai peur, j'évite de parler aussi aux gens, je suis vaccinée, hein. C'est pas le problème, j'ai peur. J'ai mes petits-fils qui viennent le mardi et le mercredi. Et hier, je me sentais pas bien, comme un petit peu un état grippal. Et maintenant, à cause de ce virus, on croit tout de suite qu'on a le virus.
Oui, alors là, il faut arriver aussi à se raisonner, à travailler sur cette peur. À pas se laisser, oui, pas se laisser engloutir non plus.
Je me suis raisonnée, j'ai pas été faire le test. J'ai voulu aller un moment, puis ça va encore servir à rien. Mais là, aujourd'hui, ça va un peu mieux, mais je sais pas ce qu'il faut faire pour... C'est l'isolement, parce qu'en plus où j'habite, c'est vraiment isolé. Hein. Je suis isolée de tout. Hein. J'ai pas de voisins.
Mais oui, mais ce que j'entends, c'est que c'est pas tellement lié au Covid, c'est plus lié à cet isolement-là. Est-ce que vous n'auriez pas envie de...
À cause du Covid, hein, parce qu'avant, je sortais.
Mais vous n'auriez pas envie d'habiter plus près de chez votre fille?
Ouais, c'est à Paris. Mais... Bah, j'ai mon mari. J'ai mon mari, j'ai mes autres enfants.
Qui sont où?
Ils sont disséminés un peu partout. J'ai mes petits-enfants qui sont près de moi, du côté de Nantes.
Ah d'accord, donc il y a du monde près de vous, vous n'êtes pas seule.
Non, mais je ne les vois que le mardi.
Bah, c'est déjà beaucoup, attendez.
Ouais, c'est vrai, je ne vais pas me plaindre, c'est vrai Sabine.
C'est ce que je disais en début de l'émission, je ne sais pas si vous avez écouté l'intro de mon émission, où je disais, on a tendance toujours à raconter ce qui va mal, et c'est normal, c'est humain.
C'est vrai.
Mais on en oublie ce qui va bien, quand même.
Ouais, c'est vrai, vous avez raison. Ouais, j'ai de la chance de les avoir le mardi, mais après, du mardi au mardi suivant, je suis seule. Demain, je sais que ça va être dur. Je dois faire, parce que j'habite assez loin de la ville, donc il va y avoir peu des places pour aller faire le plein de la semaine. Mm-hmm. Mais bon, il y a pire, hein, il y a pire.
Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des gens qui en sont morts, il y en a qui sont à l'hôpital.
Voilà, c'est ça.
Nous, on va bien, on a cette chance-là d'aller bien quand même.
Hein. C'est vrai, et j'ai peur de ne pas avoir mes enfants comme l'année dernière à Noël, parce que mon fils l'avait attrapé, il est militaire, il l'avait attrapé en mission, justement. Donc, il n'avait pas pu venir à Noël, il était resté confiné.
Mais ce qui s'est passé il y a un an ne va pas forcément se reproduire maintenant.
Ben, je ne sais pas, là, il est dans un pays, je ne vais pas dire où il est, dans un pays africain, et j'ai peur qu'il ramène...
Ah oui, là, c'était un peu compliqué.
Mais... Ben, oui, je lui ai dit encore, je lui amène des messages, mets bien ton masque, bois pas l'eau entamée, enfin... Bon, il est grand, il sait ce qu'il a à faire, mais...
Quand vous dites que vous voyez vos petits-enfants le mardi,
oui.
Les autres jours, il y a comme le téléphone ou l'ordi aussi, est-ce que vous pratiquez ça?
Ouais, j'ai de la chance. Ben, j'ai mes filles qui m'appellent à peu près tous les jours.
Hein. Et voilà.
Ouais.
C'est pas positif,
Ouais, c'est vrai. Tous les jours, elles m'appellent. Même mon fils aîné m'appelle aussi. J'ai 7 enfants. Hein.
7 enfants, ben bravo, dis donc.
Ouais, et tous les jours, c'est vrai que le grand, il est routier, tous les jours, il m'appelle, n'importe où il est, dans toute la France, il m'appelle. Ouais. Donc tous les jours, c'est vrai, je me plains que je suis seule, j'ai plus d'amis, j'ai coupé toutes les... J'en ai plus, quand je dis plus d'amis, j'ai plus d'amis.
Et pourquoi vous ne les rappelez pas, vos amis?
Je sais pas. Ouais, je sais pas.
Un jour après l'autre, une semaine, vous vous dites, voilà, je vais reprendre contact avec un tel, et puis on verra bien.
Mais c'est, je pense que c'est à cause... J'écoute juste les infos, hein, sur les flashs d'infos, c'est tout. Je regarde les infos de télé, je regarde la 6, là, les petites infos qui est entre 12h45 et 13h. Donc je suis pas contaminée avec les infos, voilà.
Regardez plutôt les comédies de Noël, ça vous fera du bien.
Ouais.
Non, mais je plaisante pas. Ouais. Oui, lisez, mais regardez des choses gaies. Des choses qui donnent le sourire, qui donnent la pêche. Parce que moi, j'entends plein de jolies choses dans votre vie, là, quand même. Hein.
Ouais, c'est vrai. J'ai téléphoné pour pas grand-chose. En fait, vous m'avez remonté les bretelles, c'est peut-être pas mal. Mes filles, elles me disent souvent ça. Mais maman, arrête un peu. T'as tes bouquins, t'as tes petits-enfants.
Non, c'est le manque, là. Il y a une baisse de morale, c'est ça. Il y a une petite baisse de morale.
C'est ça. Voilà.
Mais ça se travaille. Je vous dis, une fois de plus, donnez-vous un petit élan et puis rappelez une copine, une vieille copine, voyez comment ça se passe.
Ouais, mais la seule copine que j'ai, elle est à Laval, mais c'est pas loin.
Il n'y a pas de téléphone à Laval?
Si, si.
Sinon vous envoyez un pigeon voyageur ou des signaux de fumée, hein, si vous voulez.
Ouais, non, mais j'ai le téléphone, il ne faut pas abuser non plus. Mais ce que je voulais dire, c'est... Oui, non, il y a pire que ça, c'est vrai. Mais... c'est que il y a des jours entiers où je parle, même pas à mon mari, parce que il essaye de me faire rire, mais il raconte des conneries qui me font pas rire. Ça me fait plus rire à la fin. Ça, bah, on est mariés depuis 40 ans, donc c'est.
Bah là aussi, il y a deux façons de voir les choses.
Oui, ouais, ouais. Mais bon, ouais, c'est très dur. Je trouve que ce que va nous annoncer lundi, moi, j'ai peur pour mon Noël avec les enfants. Quoi. C'est pas pour faire la fête, pour faire la bringue, pour quoi que ce soit. C'est pour avoir les petits enfants, les enfants autour de soi. Quoi. C'est ça.
Pour l'instant, ils n'ont rien annoncé. Attendons déjà. N'anticipez pas les choses catastrophiques.
Ouais, c'est vrai, ouais.
On n'est pas à l'abri que ça se passe bien.
Mais, ma fille à Paris, elle a deux classes fermées dans son école.
Hein. Mais ça ne veut pas dire que vous ne passerez pas Noël ensemble.
J'espère.
Ça n'a rien à voir. Si tout le monde est protégé, vacciné, vous êtes prudent, logiquement, ça devrait se passer correctement.
Ben, vous verrez, Sabine, mon fils qui est là-bas, quand il va rentrer, il va encore se ramener. Il est vacciné pourtant, mais bon, ça n'empêchera pas de le revoir. Il ne reviendra pas nous voir à cause pour nous protéger. Mais je suis vaccinée, donc je ne risque rien.
Bon, il y a lui, mais il n'y a pas que lui. Vous ne serez pas seule quand même.
On verra. L'année dernière, c'était par écran interposé. Là. Enfin, vous voyez ce que je veux dire.
Oui, tout à fait.
Je ne suis pas très pro encore là-dedans. Bon, en tout cas, c'est gentil, Sabine.
Essayez de voir le vide à moitié plein, c'est ça. Le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Hein. Je pense que c'est surtout ça dont vous avez besoin. De remettre un peu de lumière dans votre vie.
Je me raccroche à mes livres.
Et puis quand vous avez
je
besoin...
Je lis énormément et...
C'est très bien. Quand vous avez besoin d'être un peu secoué, vous m'appelez.
C'est vrai. Si vous pouvez mettre des livres... intéressant sur votre page, ce serait pas mal. Je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Je ferai ça demain sur ma page Facebook, Sabine Marin, c'est promis. Faut que je vous quitte.
D'accord.
Louise, l'émission se termine.
Merci, Sabine.
Je vous embrasse.
Bon, merci, Sabine. Bonne soirée. Au revoir.
Au revoir. Quelques secondes pour vous dire au revoir. Merci à tous ceux qui sont venus nous ouvrir leur cœur en toute sincérité ce soir. Merci pour vos SMS. Je vous retrouve demain soir sur Europe 1 à partir de 23h. Et je vous quitte avec la phrase du jour. Je ne suis pas ce qui est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir. Eh oui. Passez une belle nuit et à demain. Pile 1h du matin sur Europe 1, c'est le début des programmes de la nuit.